Hey, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 et les Midi Pile. C'est l'émission On en jase sur Boulevard 102.1 avec Jeff Fortin, Mathias Turcotte aujourd'hui qui est avec nous.
Yes!
Pascal CV dans sa cinquième journée du Kilimanjaro. On va lui parler lundi. Elle devrait être rendue au sommet avec notamment la collègue Joanie Fortin de Weekend. Wow! Les filles sont exceptionnelles. Je les adore et je salue leur courage. 418-971-101, vous le savez, pour réagir par texto. Dans quelques instants, avec notre chroniqueur politique municipal, Irénée Rutema, nous allons justement revenir sur ce débat du côté de Boulevard 101, débat face à face entre Sam Ahmad et Bruno Marchand. Comment vous avez trouvé nos deux candidats? Moi, je l'ai dit ce matin, Sam Ahmad n'a pas présenté sa plateforme, qui est une bonne plateforme électorale pourtant. Ça m'a déçu énormément. Je pense que c'est pas mal à mon avis, Mathias.
Oui, ben ce que j'ai trouvé, puis Bruno Marchand, j'étais allé le voir en point de presse le matin, mm-hmm. puis il avait dit « Je vais être là pour présenter mes idées. Je vais pas être là pour attaquer mon adversaire personnellement ou autre. » Puis il l'a démontré hier. Tu voyais qu'il Clairement. Voulait démontrer sa plateforme, la présenter ses idées. Du côté de sa maman, on semblait pas là pour les mêmes raisons. On attaquait beaucoup de maires. On jouait avec des chiffres. On essayait de coincer le maire Marchand. Puis dès que ça marchait pas, on retournait sur une autre pogne. On essayait de le coincer, puis de le coincer.
Ouais.
Je sais pas. J'ai trouvé ça un peu dommage du côté d'Ahmad. Mm-hmm. Comme t'as dit, il y a une bonne plateforme électorale. J'aurais aimé ça qu'il nous en montre vraiment. Un peu plus, qu'il la mette un peu plus de l'avant au lieu d'y aller autant agressivement.
Au lieu d'y aller autant à l'attaque, t'as entièrement raison. Également, vous pouvez nous suivre via l'application Boulevard 102.1, disponible sur App Store, Google Play Store, twitch.tv, /BLVD, /FM. On est également sur la web radio BLVD.FM. On le sait, le vendredi, il y a toujours un petit peu plus de circulation sur l'heure du dîner. Mathias, est-ce que c'est le cas?
Oui, puis présentement, c'est comme une drôle de situation sur la route. Sur la capitale de Beau-Royal jusqu'à Henri IV en direction ouest, c'est pas un gros ralentissement, mais c'est comme on ralentit tout le long. Fait que ça se peut que ce soit un peu plus long qu'habituellement. Capitale direction S, un ralentissement également qui commence à se créer entre Henri IV et Robert Bourassa. Sur le boulevard Laurier, quand on arrive pour prendre le pont, présentement, c'est très, très, très difficile dans le secteur. Si vous avez des informations sur les routes, 418-971-1021.
Yes! Avant de recueillir les commentaires de notre excellent chroniqueur politique municipal, Irénée Rutema, on fait un petit retour sur le débat d'hier avec un montage très bien ficelé par le collègue Max Larouche.
Excusez-moi, répondez à ma question. Est-ce qu'il passe les SRB dans l'étude de la Caisse par le boulevard Charré, oui ou non?
La Caisse, ce qu'elle a dit, c'est que d'abord...
Oui ou non?
Monsieur Ahmad,
oui?
Laissez-moi répondre.
OK.
D'accord?
OK, allez-y.
Non, non, allez-y, vous avez l'air de savoir.
Allez-y. Alors, combien aujourd'hui on a d'employés à la ville?
Monsieur Ahmad,
combien d'employés on a à la ville?
Là, je suis ici pour passer un quiz.
Oui, OK.
Non, mais je vous l'ai dit au début, arrêtez, monsieur Ahmad. Okay. On a des bons employés qui
combien
offrent des bons services.
Combien votre masse salariale que vous payez?
J'ai l'impression d'être un génie en herbe.
Oui, ben oui, ben vous êtes le maire pendant 4 ans. Combien vous avez une masse salariale?
Monsieur Ahmad, vous présenterez vos visions. Là, vous essayez de me coincer puis je vous réponds toutes vos
je
questions.
Je ne vous coince pas, ben je vous demande de savoir vos connaissances. Ben vous êtes maire.
C'est ça, on n'est pas un génie en herbe.
Vous êtes maire. Et vous parlez au ministre des Finances. Vous avez parlé? Le ministre des Finances?
Monsieur Ahmad.
Vous avez rencontré le ministre des Finances?
Parlez-nous de votre position. Là.
Je vais vous parler de ma position.
Mais parlez-nous-en, parce
moi,
que présentement, tout ce qu'on entend de vous, c'est vous entendre poser des questions
ben
comme
oui,
si c'était un maître
parce
de
que,
génie
ben, en fait,
parlez-nous de votre position, présentez-nous votre vision. Là.
Sincèrement, je ne vois pas beaucoup de génie dans vos réponses,
bon.
Mais je vous le dis une chose.
Je ne sais pas à quoi ça vous sert d'être aussi acerbe que ça.
Vous avez demandé encore de l'argent du gouvernement il n'y a pas longtemps. Vous avez demandé de l'argent pour la police il n'y a pas longtemps. Vous avez obtenu zéro.
Non,
zéro dans l'itinérance. Et je vais vous le dire comment il faut travailler. Je vais vous le dire.
Bon,
quand
ça,
j'étais avec Régis...
Vous qui savez tout, M. Ahmad, dites-moi ça.
Pas, non,
ben
je
oui,
sais
parce
pas
c'est
tout,
comme ça que vous vous
mais parce que vous avez besoin de quelques conseils, M.
Ben,
Marchand.
Okay, j'ai
je vais vous le dire comment. Vous insultez...
M. Ahmad,
vous insultez l'héritage de M. Lallier. Êtes-vous conscient? Je vous recommande d'aller chez Renault Dépôt et aller chercher ce qu'il faut pour réparer la fontaine, s'il vous plaît. Vous avez un bilan zéro et vous arrivez aujourd'hui, vous avez su qu'il y a une campagne électorale, il y a une élection, puis là, vous êtes en train de réparer. Vous-même, vous avez reconnu que l'état des routes n'était pas bon. Vous-même, vous l'avez reconnu. Vous avez eu
Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous faites juste critiquer. Qu'est-ce que vous allez faire?
Ben,
dites-moi,
au lieu
de me
faire,
traiter du Duplessis, qu'est-ce que vous allez faire?
Ben, en fait, nous, on va... D'abord, on va bien gérer.
OK.
c'est que s'ils veulent avoir les Jeux du Canada à Québec, le gouvernement canadien, il a l'obligation de payer. Le gouvernement de Québec, il a l'obligation de payer. Moi,
c'est vous qui allez leur dire, vous avez l'obligation de payer.
Oui, monsieur.
Donnez-moi le chèque, puis ça
oui,
va marcher
monsieur.
Comme ça.
Oui,
parce que ça m'amade l'a dit.
Oui, mais monsieur Marchand,
je vais leur dire... Le temps est terminé, puis je sais que les frères Jacquaille sont encore en ville, mais j'ai pas le goût de les appeler pour vous séparer.
Ah oh non, mais non.
C'est
mais non.
Presque complet.
Ah, la bagarre avec les frères Jacquaille. Jusqu'à présent, par texto, c'est unanime que Sam Ahmad n'a pas bien, ne s'est pas bien comporté dans ce débat et qu'il a été beaucoup trop agressif en ne présentant pas sa plateforme. On parle avec Irénée Rutema, notre nouveau chroniqueur politique municipal. Irénée, comment ça va?
Ça va bien, merci. Très belle journée. J'étais sur une terrasse tantôt
à
Limoilou, mais
ouais,
en prenant un café.
T'as pris un petit café avec Claude Villeneuve?
Oui, j'étais avec...
Comment il va, l'ami Claude?
Écoutez, il est positif, il est confiant. Et j'ai réussi à reconnaître qu'il était un politicien intellectuel chroniqueur et que de plus en plus, il devient un politicien coriace.
Oui.
Et il m'a dit, je peux vous le dire, qu'il trouvait qu'il attaquait beaucoup M. Ahmad et que ça pouvait avantager M. Marchand.
Oui.
Alors, les prochaines attaques,
cible,
c'est M. Marchand.
Enfin, parce qu'on l'a eu en entrevue hier matin, justement, dans Marceau le matin, puis c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, pourquoi vous attaquez toujours Sam Ahmad? Attaquez Bruno Marchand. C'est lui qui est sur le trône, présentement.
Exactement.
C'est lui qu'il faut aller chercher.
Ben, il vous a écouté alors, c'est
Je suis très content.
T'es un conseiller politique.
Ben oui. 418-971-101 pour nous donner votre opinion. Les pros Ahmad, là, sortez de votre placard, puis honnêtement, je vous le dis, moi, la plateforme de Sam Ahmad, je l'adore. Je trouve qu'elle est très terre à terre. J'aime sa plateforme électorale, j'aime comment il propose le développement économique, mais malheureusement, hier, il nous ne l'a pas présenté. Irénée, t'as déjà une fan, Kim de la Beauce, qui nous écrit. Bien cool que ce chroniqueur revienne. Il est vraiment le fun. Good job, Jeff. Mais il va être là chaque semaine, Kim.
Mais voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. On la salue. Premièrement, c'était un bon exercice politique.
Oui, hein?
Démocratique. Et c'était explosif. Sam Ahmad était prêt à en venir au même. Moi, je pensais qu'il allait traverser et se battre avec
Marchand. Il aurait fallu que Denis se mette entre les deux.
Oui, il aurait dû leur donner des gants de boxe.
Oui.
En effet. Qui aurait gagné, on ne le sait pas. Mais comme tout le monde, M. Ahmad était picosseux. Je croyais que c'était un avocat de la défense ou de la couronne en train d'interroger un témoin. Et ce qui est plate pour M. Ahmad, donc je pense qu'il n'a pas été le grand gagnant parce que sa stratégie, comme le disait Mathias tantôt, de la question piège, la question pour déstabiliser, la question pour coincer Marchand, moi, pour moi, ça a été un échec de M. Marchand. Et monsieur le maire, là, sortant, il s'en est bien sorti malgré que c'est lui qui devait être attaqué et défendre son bilan.
En effet, t'as entièrement raison. Ouais. D'ailleurs, Daniel nous écrit, parce que j'aime ça le mentionner, Sam all the way. Alors, Daniel a aimé justement que Sam Ahmad amène Bruno Marchand dans ses derniers retranchements.
Mais, cela dit, ça a dérangé beaucoup de gens parce qu'ils posaient des questions, ils n'écoutaient pas et ils ne proposaient rien. Cela dit, moi, ce que je peux donner à M. Ahmad, c'est qu'il était combatif, agressif, et ça, je pense que ça a motivé ses troupes, parce que dernièrement, ils sont désespérés, ils n'aiment pas les journalistes, ils n'aiment pas les chroniqueurs, et donc ils sont motivés parce qu'ils ont dit « Ah, le chef maintenant, il est en feu, il est prêt à aller à la bataille, il est prêt à se battre. » Donc, c'est ça la victoire de M. Ahmad hier.
Sais-tu, t'amènes vraiment une angle que j'avais pas vue. Et je trouve ça tellement intéressant parce que c'est vrai. C'est vrai que les troupes de Leadership Québec ont été sur la défensive pour toujours essayer d'expliquer pourquoi il y a eu Air France sur le Facebook, pourquoi il y a eu de l'eau qui nous a revolé en pleine, pleine conférence de presse, pourquoi Napoléon Wu. Et là, sa maman a voulu faire différent. C'est un super bel angle. Merci, René, de l'amener. Honnêtement, je ne l'avais pas vu comme ça.
Effectivement. Alors, pour M. Marchand, et j'ai l'impression qu'il s'est laissé surprendre par le tsunami des propos de monsieur Ahmad. Et la prochaine fois, il faut qu'il soit sur la défensive. Parce que hier, là, on dirait qu'il était surpris par l'agressivité de monsieur.
Je pense qu'il ne s'attendait pas à ça, en effet. Poignée de main dans l'ordre super cordial, tout le kit. Donc, j'ai pas l'impression que Bruno Marchand s'attendait à avoir ce procureur de la couronne-là devant lui.
Ah non, pas du tout, pas du tout. Mais en même temps, monsieur Marchand doit être content parce que toutes les critiques que j'ai entendues, sauf les grands fans de monsieur Hamad, c'était que il était très agressif, les gens ne pouvaient pas écouter. Mm-hmm. Et une chose que je déplore depuis que M. Hamad est dans la campagne, c'est qu'il est tout le temps héritier de son passé. C'est tout le temps quand j'étais M. Lallier, M. Labeaume, quand j'étais ministre responsable de la capitale nationale. Et il ne nous propose pas ce qu'il va faire dans le futur. Il devrait sortir du parc jurassique, là. Mm-hmm. Là où je vais me faire détester. J'assume complètement. Et aller nous amener vers le futur. Nice. Comment il voit la vie de Québec. Et son passé, oui. Mais j'écoutais le débat avec mon amoureuse qui disait, écoutez, on dirait un baby-boomer qui part de son passé. Ou quelqu'un qui est vraiment, 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 qui n'arrive pas au 21e siècle. Et c'est ça qui était un peu dommage pour M. Hamad.
Oui, puis d'ailleurs, M. Marchand, ce matin, qui a réagi par rapport au débat d'hier, il faisait une annonce économique, la dernière annonce d'un trio d'annonces économiques qu'il a fait cette semaine. Pour lui, la raison pourquoi Sam Hamad est toujours en mode attaque, c'est pour masquer le fait qu'il n'a pas d'idée en réalité, qu'il ne présente pas sa réelle vision d'avenir. Il a aussi dit que c'était de la vieille politique, des vieux débats politiques des années 80-90, où c'est qui parle le plus fort et qui tape le plus fort. C'est ça que M. Marchand a trouvé qu'on a vécu hier. Puis d'un certain sens, j'ai pas le choix d'y donner une part de raison. Oui. Mais pour moi, le fait que Sam Hamad a été autant agressif hier, cache pas le fait qu'il n'y ait pas d'idée, parce qu'il l'a présenté dans sa plateforme.
Et je le répète, une très belle plateforme électorale.
C'est simplement un choix politique. C'est un choix de communication politique qui a été fait par l'équipe Hamad hier. Ouais. La question à se poser, c'est-tu vraiment de bon? Puis pour l'instant, avoir la réaction des gens, pas nécessairement.
Non, la stratégie n'est pas gagnante, surtout pour monsieur Hamad, parce que nous, on suit la politique, c'est une passion. Oui. Et même nous qui aimons ça, et on a trouvé que c'était dérangeant un peu. On n'était pas très à l'aise, là.
En effet. Est-ce que tu trouves que, justement, un Sam Hamad, et là, je vais inclure un Stéphane Lachance là-dedans, frappe pas sur le bon clou en y allant sur les finances publiques? T'sais, je le sais, t'es là aux exercices budgétaires de la ville. Là. J'étais là avec toi, on est souvent assis à côté de l'autre. Oui. Bruno Marchand suit le cadre financier de Régis Labeaume.
Oui.
Le suit à la lettre. Luc Monty est à la tête de ça comme DG de la ville.
Oui.
Et les finances vont bien.
Non, ça va bien.
La firme Moody le dit.
Oui.
La ville de Québec va bien au niveau financier.
Et on n'a pas été de côté comme le gouvernement Legault.
Exactement. Par contre, au niveau développement économique, le maire Marchand a eu de très grandes lacunes. Et c'est pas pour rien que cette semaine, il était dans une semaine d'annonces économiques. Mais j'entends pas Stéphane Lachance et Sam Hamad le challenger là-dessus. Je ne comprends pas.
Écoutez, j'ai suivi beaucoup d'annonces de M. Lachance qui fait une très grande, une bonne campagne électorale. Mais moi, ce que j'ai l'impression, c'est que monsieur, madame, tout le monde, les chiffres, ils ne regardent pas ça. Mm-hmm. Donc, ils savent que la ville est bien gérée, mais les détails qui intéressent nous, les initiés, et ça ne les intéresse pas du tout. Et ce n'est pas spectaculaire. Disons qu'au fédéral, on a un déficit. Ça frappe l'imagination. Au provincial, on a un déficit.
Surtout à 100 milliards,
là. Oui. Ça frappe l'imagination. Et comme les finances vont relativement bien à Québec, et tu viens de le dire, ça ne nous intéresse pas tant que ça. Puis la campagne électorale a été prise en otage par surtout le tramway. Donc, c'est ça qui prend beaucoup de place, c'est l'itinérance et le logement. Mm-hmm. Alors, le reste, là, écoute, on pourrait être en faillite et on n'en parlerait même pas parce que ce qu'on voit directement, ce n'est pas le relevé de carte de crédit, c'est l'itinérance dans Saint-Roch, c'est le manque de logement et le tramway, bien sûr. Donc, c'est ça qui intéresse beaucoup les gens. Et il y a un sondage qui a démontrer ça, je pense, dans le Journal de Québec.
Oui, en plein ça.
La semaine passée, oui.
Est-ce que c'est encore gagnant, autant pour Stéphane Lachance que Sam Hamad, de frapper sur le clou du tramway? Là, je vais vous entendre là-dessus. 418-971-1021. Est-ce que ça fait encore changer votre vote, tramway ou pas tramway?
En tout cas, en ce qui me concerne, là, je suis tanné de ce débat comme le troisième lien. On en parle, on en parle, on en parle. Et en parlant du dernier sondage, le transport, c'était en troisième
ouais,
lien.
C'est
là.
Ça.
On parlait de
lien. En troisième lien, j'adore.
En troisième lieu. Et maintenant, il n'y a personne qui me parle du tramway. Je vous le jure, là, quand je parle de politique avec mes amis, quand je parle avec les gens que je rencontre dans les cafés, non, ils n'en parlent presque plus, sauf les politiciens. Et c'est ça qui est un peu...
Ben c'est ça. Donc, tu sais, répondez 418-971-1021. Est-ce que le tramway est encore la raison d'être du fait que vous ne voterez pas pour Bruno Marchand ou qu'il va vous aider à décider de votre vote? Vois-tu, on a un excellent texto de Stéphane. Si M. Hamad a un excellent programme, pourquoi il ne le présente pas? En effet, c'est ma grande question également. Marchand, je ne suis plus capable. Il y en a plein comme Stéphane. 51% de la population veut un changement à la mairie. J'aurais pensé qu'Hamad aurait été meilleur, mais pour le moment, c'est plus des attaques aux adversaires que présenter ses programmes qu'on ne connaît pas. Et il a tellement raison, Stéphane.
Oui, exactement. Et M. Hamad, la campagne a été difficile. Il a dû prendre une semaine de congé pour se restructurer, ce qui est une très, très bonne idée. Et cela dit, avec son agressivité, il a pris trop de café pendant sa...
Avant le débat.
Avant le débat. Il a pris
trop
de café. Et je ne dirais pas qu'il aurait pris peut-être... Là, c'est une blague, parce que Boisclair prenait, là, avant qu'elle était ministre.
Ouais,
donc,
ça.
Il était très, 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 très agressif. Et les gens sont déçus. Un autre élément, et M. Hamad doit se blâmer lui-même, c'est que... il a eu des fréquentations avec M. Lachance. M. Hamad était hyper confiant. Il a refusé de rencontrer les gens de Respect Citoyen. Ce qui fait que M. Lachance a beaucoup de visibilité. Et je vous le dirai, j'étais avec Claude Villeneuve tantôt qui trouvait que c'est le plus éloquent.
Oui, non, mais en effet, et d'ailleurs, ça me permet de dire que mardi prochain, 8h30, dans Marceau le matin, sur les ondes de Boulevard 101, c'est un débat Claude Villeneuve, Stéphane Lachance, avec les mêmes thématiques.
Oui.
Donc, on veut vraiment, mais vraiment que vous ayez l'opinion des quatre candidats principaux.
Oui.
Et honnêtement, message à Stéphane Lachance et à Claude Villeneuve, présentez-nous votre programme.
Ah oui,
il y a plein d'électeurs qui vous attendent à l'heure actuelle, autant d'un côté comme de l'autre.
Et je pense que, en tout cas, Claude, il a commencé ses préparations. Là. J'ai eu la confidence qu'aujourd'hui, je pense qu'il va se préparer pendant la fin de semaine. Et une chose que j'ai aimée de M. Lachance, c'est que, comme Claude me l'a dit, il est éloquent. Et deuxièmement, quand il a présenté sa plateforme financière, écoutez, ça a pris 85 minutes. Il a pris toutes les questions. Il ne s'est pas sauvé. Et je pense que le débat, donc, va être très, 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 très intéressant. Mais si j'étais M. Hamad aujourd'hui, je prendrais un pas de recul encore. Parce que au débat de la Chambre de commerce la semaine prochaine...
Oui, mardi soir prochain.
Et il va être victime d'un tir nourri de M. Marchand. Je pense que M. Marchand va revenir plus agressif.
Bien sûr.
Et quand il n'est pas de bonne humeur ou quand il veut quelque chose, il est c'est un sportif. Donc, il va aller all-in. Alors, après ça, mais Claude va le critiquer. M. Lachance va le critiquer parce que ils veulent lui voler donc son lunch, finalement.
Clairement.
Et ça va être très difficile pour M. Hamad. Et j'ai hâte de voir l'autre personne qu'on sous-estime, qui est assez coriace, c'est Mme Smith.
Oui.
Donc, au débat des chefs, moi, je vais
elle
être...
Elle peut sortir des petits lapins de son chapeau.
Elle va pouvoir nous sortir quelques petits lapins. Et ça devrait être très, très intéressant.
Yes, Irénée, on termine ta chronique avec des textos. Faut que Marchand soit amené dans les câbles. Faut pas que la campagne soit trop facile par manque de challenge. En effet, et c'est là que j'ai hâte de voir le débat à la Chambre des commerces mardi soir. On a un autre texto ici. Moi, je vote pour quelqu'un qui veut pas de tramway à la fin des pistes cyclables. Donc, vois-tu, dans le 51% des gens qui disent « Bye-bye, Marchand, on veut quelqu'un d'autre. » Un autre texto est rentré. « Ah, moi, Stéphane Lachance, ça me pompe pas, ça me dit rien. » Donc À voir si cette personne-là trouvera du bon, plus un vote pour Sam Ahmad, j'imagine. Oui. Monsieur Lachance avec Ahmad aurait été beaucoup mieux complet pour l'opposition officielle. En effet, je suis entièrement d'accord, même pour prendre la mairie avec un chef et un autre qui est le maire suppléant. Et Marchand insupportable, Ahmad, commande Ciboire. Donc, on voit c'est quelqu'un qui veut Sam Ahmad.
Sur une note plus positive, sérieusement, je trouve que nous avons des choix clairs et différents. Donc, on peut aller avec Marchand, Ahmad, Lachance, Jackie Smith et même la Madame Solitaire. Là.
Oui, Anne-Guérette.
Anne-Guérette. Donc, pour quelqu'un qui aime la politique, pour les citoyens, on a l'embarras du choix. Et il faut le saluer parce qu'avant, c'était la bombe. Là. C'est, la bombe était l'empereur. Lui, je pense qu'il n'aurait même pas eu besoin de faire campagne. Il aurait été réélu là, facilement. Ouais. Là.
On a un Go Ahmad Go ici également. Mmh. Donc, Sam Ahmad, chez les auditeurs, malgré un débat qui a été sûrement plus difficile, n'a pas perdu tant de plumes que ça. Alors ça, c'est très intéressant.
Oui, ça, c'est très intéressant. Mais je pense que, j'espère que peut-être que je peux me tromper, mais je pense que ceux qui l'aiment, ceux qui veulent que Marchand perde, et ils sont motivés parce qu'il était très agressif.
En effet. Oui. T'as entièrement raison. Irénée, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
On se reparle la semaine prochaine.
Assurément. Excellent. J'aime pas le mot assurément, mais
tout le monde le dit. Vendredi prochain, tu seras avec nous avec plaisir, mon ami.
Parfait. Bonne fin de semaine.
Salut, bon week-end, Irénée. Mathias, il y a de la circulation.
Juste vous dire que sur Capital, présentement, c'est très, très compliqué. Ça commence à être très compliqué dans les deux directions. Fait que dans les prochaines minutes, là, ça va être très compliqué. On part de Capital direction Est à partir d'Henri IV et un peu dépassé Robert Bourassa. C'est au ralenti. Également à Capital direction Ouest à partir d'avenue Beau-Royal et ça jusqu'à Laurentienne. Là, on voit un gros ralentissement qui commence à se créer. Également, boulevard Charest-Ouest, lorsqu'on sort d'Henri IV en direction de Robert Bourassa, c'est difficile. Si vous avez des informations sur les routes, 418-971-1021.
Merci beaucoup, Mathias. Un autre texto qui est rentré à Mad 100%. Donc, honnêtement, c'est très intéressant parce que nous, on est des cracks de politique. On adore la politique, puis on check tous les petits détails. Mais là, ce que je me rends compte, c'est que chez les citoyens moyens, le fameux sondage de 51% des gens qui veulent des hors marchands, il est là. Il est là dans nos textos à l'heure actuelle. C'est tellement intéressant. Merci de continuer à réagir au 418-971-1021.
Mais il faut penser à un aspect important aussi, je pense. Comme tu as dit, il y a 51% des gens qui veulent voir Marchand sortir. Dans ce 51%-là, il y a beaucoup de monde que c'est pas juste qu'ils veulent voir Marchand sortir, c'est des personnes qui détestent Marchand.
C'est tellement un bon point.
Même s'il y a un candidat qui arrive, puis durant un débat, présente pas nécessairement ses idées, toute la part de ceux qui haïssent Marchand, le fait qu'il aille le challenger, le fait qu'il arrive agressif sur Marchand, il y a plusieurs personnes que c'était pas nécessairement des idées, qui voulaient juste quelqu'un qui plante Marchand, on va dire comme ça, juste quelqu'un qui va agressif envers Marchand. Puis ces personnes-là qui haïssent Bruno Marchand, ben ça se peut qu'ils ont trouvé le débat d'hier de Sam Ahmad très intéressant.
En effet, donc c'est très intéressant. Merci encore de réagir au 418-971-1021. JP qui nous écrit « Anne-Guérette, let's go ». Ben let's go mon JP. Va voter pour Anne-Guérette si c'est le vote que tu veux faire. Et surtout, allez voter. Puis, je peux peut-être pas en parler tout de suite, mais j'en parle quand même. Vous le savez, on est des cracks de politique et d'actualité à Boulevard. Donc, le 2 novembre au soir, on aura une équipe complète pour couvrir les élections municipales, autant à Québec qu'à Lévis. On va avoir bien du fun. Et on devrait vous annoncer ici à l'émission On en jase la semaine prochaine un débat entre les trois candidats à Lévis, Stephen Blainey, Isabelle Demers et Serge Bonnet.
Les auditeurs vont être gâtés. Fait que nos auditeurs de la Rive-Sud vont être gâtés, vont pouvoir, avec ce débat-là, peut-être prendre un choix éclairé puis voir les plateformes des différents candidats. Très, très intéressant.
Exactement.
Ce qui s'en vient sur Boulevard.
Je continue avec quelques textos. D'or marchand, mais crime qu'on veut un programme pour faire notre choix. Bon point ici. Personnellement, je trouve que la technique d'Ahmad était juste pour motiver ses troupes, mais zéro pour aller chercher d'autres qui sont pour un autre candidat. Exactement ce qu'Irène a dit. Super intéressant. JP qui dit « Je plaisantais pour Anne-Guérette. » On te pardonne, mon chum. Savez-vous que si... chez M. Gingras des autobus de la Québécoise. Non, c'était pas en lien. J'aime pas Marchand, mais Calvert, présente-moi ce que tu vas faire en parlant de Sam Ahmad. Et je suis d'accord avec toi, Mathias, mais crime, une vraie gestion, peu importe qui, les poubelles, le trafic, système de transport en commun, prenez quelqu'un qui prend le pouls de la population. Alors, merci de réagir autant. Parlant de quelque chose qui a fait réagir Mathias, hier, on a terminé l'entrevue avec Enrico Ciccone en se disant « Hey, il faut se reparler des jeunes, puis de la santé chez nos jeunes, du sport chez nos jeunes. » Et là, pataf, ce matin dans le Journal de Québec, augmentation de 5,5% de l'obésité au Québec en 10 ans, 29,4% d'obésité au Québec. On est la deuxième meilleure province, mais on est en montée fulgurante. Mathias, c'est très questionnant.
Ben oui, puis je pense que c'est quelque chose qui s'en vient de plus en plus inquiétant. On voit ce phénomène-là se répandre partout au Québec. Puis même si on est la deuxième province, la meilleure deuxième province au Canada, c'est pas parce qu'on se compare contre des moins bons qu'on est bon pour autant. Parce que pour moi, une personne sur trois au Québec qui est en situation d'obésité, c'est très, très, très élevé. Puis d'ailleurs, je me suis entretenu aujourd'hui avec une pédiatre endocrinologue, la docteure Mélanie Anderson, à ce sujet-là. Puis ce qu'elle m'expliquait tout d'abord, c'est que plusieurs facteurs peuvent expliquer cela, dont la hausse du coût de la vie.
L'obésité, comme on se disait tout à l'heure, c'est multifactoriel. On a des composantes génétiques, on a des composantes d'habitudes de vie, on a des composantes de politique publique, mais on a également les enjeux que ce sont nos plus démunis dans la société canadienne qui sont affectés. Et donc, toute la situation actuelle au niveau du panier d'épicerie, puis au niveau de le pouvoir d'achat pour ces gens-là, c'est un problème majeur parce que si d'acheter du lait pour son enfant, ça coûte beaucoup plus cher que d'acheter un litre de Coke, ben c'est sûr que le choix va être facilement fait pour les familles pour qui toutes les scènes comptent.
Le collègue Marceau, ce matin, rappelait la statistique et avec raison, 80% de notre poids corporel est géré par notre alimentation, 20% par notre activité physique. Alors oui, en effet, le coût de la vie est un facteur immense sur l'obésité à l'heure actuelle.
Pis c'est triste de voir que c'est encore une fois les plus démunis de notre société qui sont touchés, autant sur les aspects de santé physique, d'obésité présentement. Puis également, il faut prendre en compte que pratiquer du sport au Québec, des fois, ça peut coûter cher. Ça peut coûter cher pour les familles devoir inscrire leurs enfants à plusieurs activités sportives. Si on commence à être une famille nombreuse, ça devient facilement des centaines et des centaines de dollars qui s'accumulent.
Tu as très raison. En passant, Martin te fait dire que tu fais une excellente job, Mathias, que tu t'améliores de jour en jour. Et commentaire très pertinent de David, la COVID qui a fait arrêter le sport chez ses deux plus vieilles filles, c'est un facteur également.
Oui, exactement. Puis ça ressortait dans le Journal de Québec également ce matin que plusieurs personnes avaient perdu leurs bonnes habitudes de vie en raison de la COVID. On le sait, on pouvait plus vraiment bouger. C'était difficile même par moment de sortir à l'extérieur. Il y avait le couvre-feu par moment. Certains marchaient trop. Je veux dire, il y avait plein de conditions qui pouvaient expliquer ça. Si on revient un peu aux familles, on parlait des familles les plus démunies qui sont impactées. Le chiffre, moi, qui m'a vraiment choqué dans cet article-là, on parle pas d'augmentation, mais on parle d'un chiffre qui est beaucoup trop élevé. 31% des enfants au Canada, un enfant sur trois au Canada, sont en surpoids.
Oh, ça n'a pas de sens.
C'est extrêmement élevé. Puis d'ailleurs, la Dr Anderson m'a un peu expliqué ce qui peut expliquer cet énorme chiffre.
Donc, par exemple, tout le mouvement « Super Size Me », donc les portions qui sont vraiment très, très grandes, quand la restauration rapide qui est très accessible et moins coûteuse que des aliments plus sains.
Un bon McDo.
On peut parler de réduction de cours d'activité physique à l'école. D'accès plus difficile à des sports organisés, comme on discutait tout à l'heure. Donc, il y a vraiment plein de facteurs qui viennent jouer. Mais pour moi, c'est que cette situation-là, même si on a un peu un plateau dans les chiffres sont tellement élevés, on parle d'une tellement une grande proportion de la population pédiatrique, mais ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que
Mais c'est ça, c'est... Puis sans surprise, l'environnement alimentaire canadien présentement, avec tout ce qui est fast-food, avec tout, comme elle a dit, les aliments qui coûtent moins cher à l'épicerie présentement sont habituellement faits avec de moins bons ingrédients et sont moins bons pour la santé également. Donc tout ça cause problème et crée justement cette situation-là chez les jeunes. Mais là, ce qui devient
Les jeunes, là, quand ils sont obèses, restent-tu obèses?
Ben c'est ça, parce que... Oui, ben c'est ça qui commence à devenir inquiétant, parce que des fois, on se dit, ah, un enfant qui a un petit surpoids, c'est son gros de bébé, il va le perdre. Ben, de ce que la docteure Anderson m'a expliqué, c'est qu'on se rend compte de plus en plus que ça, c'est pas du tout vrai, en fait.
D'avoir une obésité en bas âge, ce qui arrive, c'est qu'on cumule dans le temps les risques, parce que auparavant, on pensait que l'enfant, surtout l'enfant en petite enfance, qui était un petit peu plus rondelet, que ce serait un enfant qui grandirait et perdrait. Hein, on parlait du gras de bébé qu'on perdait. Mais dans les faits, ce qu'on voit, c'est que l'enfant qui a une obésité à la petite enfance devient l'enfant d'âge scolaire avec une obésité, qui devient l'adolescent avec une obésité. Puis 80 % des adolescents avec obésité ont une obésité à l'âge adulte. Donc, ces enfants-là cumulent le risque dans le temps et vivent des complications métaboliques. Et ça, on le voit même chez les tout-petits loulous d'âge préscolaire.
Hey, c'est donc bien intéressant ce que la docteure Anderson mentionne. Et tout à l'heure, on parlait d'activité physique, de coût de la vie. Yannick qui nous écrit: j'ai un petit gars qui joue au hockey pour s'amuser. Ça me coûte 800 $ d'inscription. Et là, les tournois s'en viennent. C'est très cher. En effet, c'est vraiment pas donné à tous. Et il y a un autre auditeur, auditrice qui a écrit, qui m'a fait mirer. Elle dit: hey, je m'en allais manger tranquillement à la maison. Puis, Colin, vous venez de parler de McDo.
Mais c'est important. C'est quand même important de dire, même si on a envie de manger de McDo, puis ça nous prend tous par moment, c'est correct de le faire de temps en temps. Il n'y a aucun problème de se gâter, mais essayer le plus possible de limiter le fast-food, c'est
les
sûr.
Les problèmes d'obésité chez les jeunes, est-ce que ça amène des problèmes de santé plus graves?
Oui, bien, une autre affaire intéressante, des fois, on peut dire, ah, c'est pas grave, l'enfant, il est jeune, il a un bon métabolisme et tout. Mais pourtant, de ce que la Dr. Anderson m'expliquait, c'est qu'elle a participé à une étude qui démontrait que présentement, on a une hausse de 60 % du diabète de type 2 chez les enfants. Ça, c'est environ une dizaine d'années. Puis que parfois même, ce diabète-là, il est plus agressif chez les jeunes.
Quand on développe des complications métaboliques en bas âge, on voit que pour certaines complications en particulier, c'est beaucoup plus agressif que ce qu'on voit avec la même maladie à l'adulte. Puis le bon exemple de ça, c'est le diabète de type 2. Donc le diabète de type 2, on en voit de plus en plus chez les enfants. Une récente étude auquel j'ai contribué démontrait que l'incidence a augmenté de 60 % sur 10 ans au Canada. Mais ces enfants-là, ils sont beaucoup, beaucoup plus malades que l'équivalent de la personne adulte qui développe un diabète de type 2. Ils ont des complications, un échec au traitement, leur mortalité est augmentée. Donc, on doit vraiment pas prendre à la légère les statistiques en lien avec l'enfant.
C'est vraiment très questionnant. Puis dis-moi donc, Mathias, est-ce qu'il y a des moyens justement de régler ça? Parce que là, la courbe est juste ascendante. Là. Ça fait peur. Là. Je reviens à COVID. Là. Le docteur Arruda, il faut baisser cette courbe-là. Il faut l'amener plus bas. On est capable de faire ça?
Oui, puis d'ailleurs, Christian nous écrit pour dire qu'il blâme beaucoup l'ignorance, la paresse alimentaire, la culture d'industriel. Donc l'ignorance. C'est sûr qu'il y a un travail de prévention à faire du côté du gouvernement. Mais malgré ça, pour la Dr. Anderson, la prévention n'est pas suffisante.
C'est sûr qu'on doit travailler la prévention, l'éducation auprès de la population sur comment on peut optimiser un poids santé, d'avoir les meilleures habitudes de vie possibles. Mais comme on a dit tantôt, ça ne relève pas exclusivement des habitudes de vie. Et donc, il faut qu'on n'ait pas seulement des mesures préventives, mais on doit avoir des mesures de prise en charge avec des cliniques multidisciplinaires pour venir répondre aux besoins de ces familles-là. Et puis ça, c'est quelque chose qui manque au Québec, même si on compare, par exemple, avec nos voisins en Ontario.
Ça me fait penser, me semble, à quelqu'un qui nous a parlé hier.
Oui, et qui nous a parlé du fait qu'un médecin ne pouvait pas nécessairement traiter de l'obésité.
Exactement. On l'écoute, Enrico Ciccolin.
J'ai tenté de faire reconnaître l'obésité comme étant une maladie. T'sais, on est la seule personne qu'on le reconnaît pas. Là. Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'il y en a qui vont dire que ça va coûter cher de traiter l'obésité. Mais en même temps, l'obésité nous coûte plus d'un million par année. Aïe, ça n'a pas de bon sens. Là, parce que tu dis, OK, parce qu'un médecin, il faut comprendre ça, là, ce qui est complètement paradoxal, là. Si vous avez un problème de poids, là, OK, vous allez chez le médecin, mais le médecin ne peut pas vous traiter pour l'obésité. Il va vous traiter pour le diabète, les problèmes cardiovasculaires. Il va vous traiter pour tout le reste, mais il ne peut pas vous traiter pour l'obésité. Alors que si on était capable de reconnaître l'obésité, par exemple, comme étant une maladie, mais là, on pourrait traiter à la base et à la source cette problématique-là qui réglerait d'autres problèmes, là.
C'est intelligent. Ce qu'Enrico Ciccone a mentionné, c'est exactement dans la même veine que la Dr. Anderson.
Oui, puis on voit que changer des habitudes de vie, perdre du poids, c'est très difficile. Mm-hmm. Donc forcément, c'est bien de faire de la prévention, mais des fois, il y a des moments dans ta vie, ça peut être plus difficile. Ça se peut que tu perdes des habitudes de vie par un moment, puis que tu prennes du poids. Ouais. Mais c'est important de dire, hey, on va te donner les ressources nécessaires pour encourager cette perte de poids-là. Surtout que là, on voit justement que 80% des adolescents en situation d'obésité le restent à l'âge adulte. Mm-hmm. Donc, une situation qui arrive très, très jeune, bien, ça perdure dans le temps. Il faut pouvoir donner les moyens à ces personnes-là de pouvoir remédier à cette situation-là.
Tellement. Merci beaucoup, Mathias. Dossier très, très, très intéressant et dossier qu'on va suivre dans l'actualité. À souhaiter qu'on fasse pas juste s'assiner sur des dossiers de santé numérique à l'Assemblée nationale et qu'on regarde justement des dossiers comme ça de santé chez nos jeunes qui sont primordiales. Mathias, sais-tu quoi? Il va faire 24 degrés dimanche.
Oh, on est gâtés.
C'est le fun, ça?
Ah, c'est le fun, certain.
Hey, on va être gâtés. On a eu une belle semaine. Hein? On a eu une belle semaine. Mais là, à 24 degrés, là, le Roger Hors joue. Ça, dimanche 5 octobre, des 13h. Au stade TELUS. Il y a déjà plus de 16 000 billets vendus. C'est contre les Seniors de Concordia, puis on va souligner les 30 ans du club de football Roger Or. On va présenter les meilleurs jeux de l'histoire sur l'écran géant et il va y avoir les meilleurs joueurs de l'histoire aussi qui vont être présents des éditions championnes du Roger Or. C'est à 13h. Là, tu te dis 16 000 billets, 24 degrés. Ouais, je pourrais en prendre, je vais être admission générale. Bah, je vais me promener sur le bord du terrain. Ça me tente-tu pas, mais ça tombe bien. Moi, j'ai une paire de billets à faire tirer. Pas pire, hein?
Hey, on garde tes auditeurs.
On garde les auditeurs drôles, là. J'ai dit qu'il faisait combien de degrés dimanche, Mathias?
24 degrés.
24 degrés. Textez votre nom avec votre numéro de téléphone et 24 degrés. Textez-nous ça au 418-971-1021 et vous allez courir la chance de gagner une paire de billets pour le Roger Or de l'Université Laval ce dimanche. Il est déjà en studio avec nous, c'est l'ami Farnel Morisset qu'on adore. On fait une courte pause et par la suite, Farnel va nous parler de la situation à Gaza, situation d'aide humanitaire que de la difficulté à atteindre la bande de Gaza, donc situation de famine. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1, c'est l'émission On en jase. On en jase, les amis, sur les ondes de Boulevard 102.1 à chaque midi du lundi au vendredi, midi à 14h. On a énormément de plaisir à faire cette émission pour vous et vous interagissez énormément au 418-971-1021. Merci. D'ailleurs, sur le sujet de l'obésité, il y a Jean-Michel qui a amené un bon point. Il dit « Hey, à ça, c'est des trottinettes électriques. Avant, au moins, on poussait ça avec notre pied et on faisait de l'activité physique. » C'est vraiment un excellent point, Jean-Michel. Et je félicite Philippe Giguère, gagnant de la paire de billets pour le Roger Or de l'Université Laval dimanche. Il avait la bonne réponse, c'est-à-dire 24 degrés. Vous avez été plusieurs à participer au concours. On a en studio avec nous l'ami Farnel Morisset. Mais avant, Mathias, tu viens de me faire signe. Hey, Jeff, il y a de la circulation.
Oui, bien, ça commence à être très difficile sur le pont direction sud. Là, présentement, sur Henri IV, ça remonte un peu après chemin Sainte-Foy. Là, même, on peut dire que ça remonte jusqu'à Versailles-Nord présentement. Là, puis ça va s'empirer de minute en minute. Également, capitale direction est d'Henri IV à un peu après Robert Bourassa, un ralentissement à prévoir. Henri IV direction ouest, cette fois-ci. Henri Bourassa jusqu'à Laurentienne, c'est difficile. Charest direction est, en sortant d'Henri IV jusqu'à Robert Bourassa, ralentissement à prévoir également. Si vous avez des informations, 418-971-1021.
Merci beaucoup, Mathias. Farnel Morisset, comment vas-tu?
Ça va très bien. Comment ça va, vous autres?
Ouais, ça va super bien. T'as passé une belle semaine?
Ah, super. Hey, il a tellement fait beau. Hey, comment
fou,
tu peux
ouais?
pas passer une belle semaine qui a fait beau?
Hey, dire qu'on est rendu le 3 octobre, puis alors 24
allé me baigner. Grill, 5...
Ben voyons donc.
Ben oui, j'ai une piscine chauffée quand même, ouais. Là, mais dans mon bloc, je suis allé me baigner.
Ah, j'ose espérer c'est... qu'elle chauffe.
Oui, oui. Parce que les nuits sont quand même assez froides. Exactement. Farnell, avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux te faire entendre, c'est sur la chaîne France 1, ce reportage sur ce qui se passe à Gaza à l'heure actuelle.
C'est un combat quotidien pour des milliers de Gazaouis. Trouver à manger, et parfois il faut jouer des coudes dans les centres de distribution alimentaire qui ne sont pas ouverts tous les jours.
C'est la famine, il n'y a ni nourriture ni eau. Où aller? Où trouver à manger? Comment nourrir nos enfants?
Cela fait 2 mois que Gaza ne reçoit plus aucune aide humanitaire, bloquée par Israël. Et il n'y a quasiment plus de réserves en nourriture ou en eau potable.
Dans quelques jours, on aura d'autres choix que de fermer. On ne peut pas continuer. On manque de tellement de choses, de la nourriture et du bois. Il n'y a plus rien.
Il n'y a plus rien après 18 mois de guerre. Les bateaux détruits, ces pêcheurs bricolent. Une porte de réfrigérateur pour embarcation et une simple ligne pour trouver du poisson.
Aujourd'hui, il y a peu de poissons. Ces mulets ou ces dorades serviront à peine à nous nourrir.
L'État est vraiment critique présentement dans la bande de Gaza, Farnell. Et là, l'aide humanitaire a encore de la difficulté à entrer là-bas.
Oui. Et je veux dire, je pense qu'on ne peut pas passer à côté de la chose parce que c'est toujours en arrière-plan. Là. On va utiliser un mot qui fait peur aux gens, mais les Nations Unies, il y a une commission spéciale sur les mm-hmm. droits de l'homme qui avait un comité d'enquête indépendant qui a dévoilé son rapport il y a à peu près 2 semaines, comme de quoi, selon leurs études, leur analyse, ce qui se passe présentement à Gaza, c'est un génocide. Le mot est lourd de conséquences, très lourd de conséquences. Il y a encore du cheminement à faire à travers les Nations Unies, tout ça, mais ça reste que ce qui se passe présentement à Gaza, avec Israël qui ne permet pas assez de médicaments, de nourriture à rentrer, c'est un élément qui constitue un des éléments de génocide. Alors, ce qui se passe présentement, c'est que devant l'action, disons, très lente, même l'inaction internationale, il y a des groupes civils. Alors, c'est des bénévoles qui s'organisent en flottille. Ça, ça a commencé il y a quelques mois.
Mais c'est quoi une flottille?
C'est comme un convoi de bateaux, si vous voulez. OK. Alors, le mot flottille, là, c'est le mot technique pour dire un convoi de bateaux.
Mais des petits bateaux, là.
Oui, puis c'est vraiment ça, là.
Mon bateau individuel que j'aurais, moi, je mets des denrées là-dedans, puis je m'en vais porter ça à Gaza.
Ben, tu sais, c'est pas tout à fait. Si vous avez un petit bateau dans la marina de Québec, je pense pas que c'est exactement ça, là. C'est quand même des bateaux un peu plus gras parce qu'ils vont quand même en haute mer, ils vont dans la Méditerranée. Mais oui, c'est des bateaux. De civils qui ont été souvent donnés de façon bénévole pour ces initiatives-là. Il y en a eu plusieurs depuis quelques mois, mais ça commence vraiment à prendre l'attention maintenant parce que, entre autres, il y a eu les Nations Unies qui ont dévoilé leur rapport, mais pas plus tard que hier, une de ces flottilles-là, de 40 navires à peu près, 500 personnes en tout, qui viennent de tout plein de pays à travers le monde, dont au moins 4 qui viennent du Canada.
Donc énormément de denrées qui suivent avec ça, de nourriture, de médicaments.
On parle de plusieurs tonnes de nourriture, de médicaments. C'est pas assez pour soulager tous les Gazaouis, mais c'est supposé aider. Partent de plusieurs pays à travers la Méditerranée, à peu près 5 pays de la Méditerranée. Cette flottille-là en particulier, qui s'appelait la flottille globale Soumoud, qui est un mot arabe qui veut dire, là, j'ai mes notes devant moi, résilience, se sont rejoints en Grèce le 23 septembre pour, après ça, tenter de se rendre à Gaza. Gaza qui est présentement sous un blocus israélien. Le blocus lui-même, en droit international, est probablement légal, parce que c'est légal d'avoir un blocus contre un pays ou contre un endroit où on est en guerre pour essayer d'empêcher l'approvisionnement en munitions, en armes.
Ouais, ben c'est ça. J'ai compris qu'il y avait un blocus parce qu'on veut pas que des armes additionnelles entrent à Gaza pour justement faire en sorte que le Hamas constitue encore une force.
Oui, ce qui est quand même, je veux dire, on peut comprendre.
Ce qui est logique,
on ne veut pas armer le Hamas. Ça, je pense que
ce qui est logique.
Il y a un consensus là-dessus. Mais un des critères importants d'un blocus pour qu'il demeure légal, c'est qu'on ne peut pas empêcher l'entrée de biens humanitaires. On ne peut pas empêcher l'entrée de nourriture ou de médicaments tant que, par exemple, cette nourriture-là ne va pas aller intentionnellement à nourrir des soldats ou que ce n'est pas des médicaments qui peuvent être réutilisés pour en faire des armes chimiques, par exemple. Mais le principe de base, c'est ça. C'est que s'il y a un besoin humanitaire, on ne peut pas utiliser un blocus pour empêcher l'entrée de ces biens-là et que ça reste légal. Ouais. Alors, c'est
donc,
ça que les flottilles essaient de faire.
Donc, je le mets sa plus simple expression, la flottille arrive avec 1000 boîtes de bord-tende.
Genre?
Ben, je peux pas dire à la flottille, tu sais-tu quoi, tes bord-tende retournent au Canada avec, faut que je les laisse entrer à Gaza.
Tu peux pas, à moins que tu puisses prouver autrement, puis là, ça devient compliqué, là, ouais. Je vais pas rentrer dans,
là,
dans tous les détails.
Serait une
que c'est ça, que les bord-tende sont spécialement conçus pour nourrir les combattants du Hamas. C'est,
ouais.
Ça devient compliqué, puis c'est là, c'est là que Israël va jouer là-dessus, va dire, ah, ben, t'sais, immédiatement, ça va être intercepté par le Hamas, qui vont le rediriger à leurs combattants. Alors, c'est là que ça devient compliqué. Mais le principe de base, tu ne peux pas utiliser un blocus international, même en guerre, pour empêcher l'entrée de nourriture et de médicaments pour des populations civiles qui en ont besoin. C'est pour ça que les flottilles tentent de dépasser le blocus israélien. Évidemment, ils savent que ça ne va pas fonctionner parce que le blocus israélien, il est très serré, mais que chaque fois qu'ils se font intercepter, ça ajoute un peu plus de pression internationale pour dire, ben là, je veux dire, c'est on essaie d'envoyer de l'aide et les forces armées israéliennes l'empêchent.
Puis là, qu'est-ce qu'on fait avec ces flottilles-là quand on les intercepte? On les envoie où? La bouffe se retrouve où?
Ben, la première chose, il faut comprendre, c'est dès même que la flottille part, alors cette flottille ici qui est partie de Grèce le 23 septembre, le jour même, certains des navires de la flottille, puis encore une fois, ce n'est pas des navires militaires, c'est des navires civils qui sont c'est un peu plus gros que des paquebots d'ici, se sont fait attaquer par des drones. Officiellement, on ne sait pas c'est qui les a attaqués, parce que les drones peuvent venir de très, très loin, mais je pense qu'on peut quand même deviner que c'est probablement quelque chose qui fait l'affaire d'Israël.
Attends une minute, je vais mettre mon petit doigt dans les airs. OK, je crois que j'ai une réponse.
Ouais, tu sais, encore une fois, on est dans les suppositions, là, mais mettons. Alors, c'est en eau internationale. Alors, parce que ces flottilles-là ont des civils qui viennent de toutes sortes de pays différents, plusieurs de ces civils-là ont fait appel à leur gouvernement pour dire hey, « venez nous protéger ». On est dans des eaux internationales. On est dans des eaux commerciales qui sont supposées être libres pour tout le monde.
C'est ça, libre de droit. Donc, je peux me promener là puis je ne suis pas censé me faire attaquer par aucune force militaire d'un pays quelconque.
C'est supposé être la norme.
Ouais.
Alors, il y a quelques pays de la Méditerranée. Il y a l'Espagne, l'Italie, la Turquie qui ont envoyé certaines aides militaires, des bateaux qui étaient là pour encadrer la flottille. Ce qui a mis fin à ces espèces d'attaques de drones-là. Mais évidemment, les navires militaires ne peuvent pas rentrer dans des eaux qui sont sous blocus, parce que ça, là, on est dans les opérations militaires. Et ça nous amène à un autre concept qui est compliqué, c'est le concept des eaux internationales. Parce que c'est un concept qui est important en droit international, mais qui n'a pas de définition extrêmement claire, qui ne fait pas l'objet de traités auxquels tous les pays sont membres. Alors, tout ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle le droit international coutumier, qui est essentiellement juste les bonnes pratiques que généralement les pays reconnaissent, mais ne sont pas obligés, il n'y a pas de contraintes. T'sais, c'est comme tu demandes à ton ami « est-ce que j'enlève mes souliers en rentrant chez lui? » C'est de la coutume, mais on s'entend que tu ne veux pas aller en prison si tu ne le fais pas.
Non.
Et selon le droit coutumier, il y a les eaux internationales s'arrêtent à 22 km des côtes, à peu près. Là, c'est normalement en 1000 nautiques, là, je fais la conversion en kilomètres. Mais de 22 à 44 km des côtes, généralement, c'est accepté que les pays puissent intercepter des navires qui sont suspects. Alors, il y a cette espèce de zone grise-là de 22 à 44 km. Et c'est, là, dépendant des rapports, parce qu'évidemment, la flottille est assez grosse, les bateaux ne sont pas tous à côté de l'autre. Il y en a qui auraient été interceptés dans les eaux internationales selon ces normes-là. Il y en a qui auraient été dans la zone grise. Et il y en a qui auraient été interceptés dans les eaux territoriales de Gaza, qui sont sous un blocus légal. Et ça aussi, ça amène toutes sortes de complications additionnelles, parce que ça ajoute un élément de, ben là, est-ce que c'est un acte de piratage? Est-ce que c'est un vol de biens commerciaux dans les eaux internationales? C'est pas encore clair non plus. Ce qu'on sait, c'est que les navires ont été interceptés, tous les passagers ont été arrêtés par les forces israéliennes, ils ont été redirigés vers un port sous le contrôle israélien où tous les denrées vont être déchargées et peut-être éventuellement un jour, se rendre à Gaza.
À Gaza.
On ne le sait pas. Puis pendant ce temps-là, tous les manifestants, les 500 membres du personnel bénévole de ces bateaux-là vont se faire déporter, ramener chez eux. Puis on parle de gens qui sont beaucoup d'activistes humanitaires. T'sais, Greta Thunberg en est une. Il y a des parlementaires européens qui faisaient partie de ça aussi pour essayer d'amener. C'est toujours dans une optique d'amener de l'attention, d'amener de la pression additionnelle chaque fois. Et chaque fois, ça en amène un peu plus. Ce qui mène à ce qu'on est en train de faire maintenant, nous, ici en studio, à en parler parce que Peut-être qu'on devrait en parler.
Exactement. C'est clair qu'il faut en parler parce que la famine est prise là, à Gaza. Là. On a depuis des mois, reportages oui. là, depuis des mois. Il y a de plus en plus d'enfants qui sont dans les hôpitaux là-bas pour malnutrition. Donc, c'est pour ça qu'on commence à parler justement de génocide. T'en penses quoi? Est-ce que ça va mettre suffisamment de pression? Là, il y a Donald Trump qui a fait son plan de paix en 20 points.
Ouais, la Riviera Gaza, là, ouais. qui est assez, en tout cas, que ça,
il
ça,
a
ça,
dit au Hamas, vous avez jusqu'à dimanche pour embarquer là-dedans. Mm. Donc, c'est un dossier tellement complexe. Ouais, il y a plein d'angles à regarder, mais est-ce qu'on est capable de mettre suffisamment de pression? Parce que pour moi, je comprends qu'il y a une guerre, mais ça fait pas de sens qu'on empêche de la nourriture d'entrer à Gaza. Là, la famine est prise.
Ben, je pense que tu dis bien, c'est un dossier qui est très, très complexe sur le plan géopolitique. Mais une chose que je me rappelle avoir appris dans mes cours de droit, c'est que oui, le droit, c'est très complexe, mais des choses qui sont simples. Un enfant qui a faim, c'est simple. Le droit international, c'est compliqué. Un enfant qui a faim, c'est simple.
En effet.
Et ben, on parle justement de continuation. Il y a une autre flottille qui est en route présentement, qui devrait arriver dans les prochaines semaines. Évidemment, je veux dire, avec les eaux et tout ce qui se passe, les dates exactes sont difficiles à savoir. Mais il y a une autre flottille où il y a plus de Canadiens, dont entre autres Nima Machouf, qui est québécoise de Montréal,
oui.
Qui participe à cette flottille-là, qui eux aussi vont tenter. T'sais, chaque fois, l'objectif, c'est d'essayer de faire une brèche parce que s'il y a même un seul navire qui est capable de passer, qui se laisse passer, ça devient encore plus compliqué en droit international pour Israël d'empêcher les prochains, parce qu'ils ont comme un peu tacitement permis à un bateau. Alors, chaque fois, l'idée, c'est ça. C'est comme si on se disait, on cogne à la porte, est-ce que tu nous laisses rentrer? Non. OK, ben on va revenir. On cogne à la porte, est-ce que tu nous laisses rentrer? Non. Ben on va revenir. Éventuellement, peut-être que si quelqu'un dit oui, ben là, ça ouvre la porte grande ouverte à toutes sortes d'autres aides humanitaires qui pourraient justement simplifier la question de l'enfant qui a faim.
Et qui peut réussir à défaire ce maillon-là? Parce que tu sais, Benjamin Netanyahou a parlé à l'ONU vendredi dernier. Mm-hmm. On en a parlé quand tu es venu ici. Les diplomates se sont levés, sont partis. T'sais, est-ce qu'il y a un pays, est-ce que c'est l'Union européenne, est-ce que c'est les pays du Moyen-Orient qui pourraient réussir à mettre suffisamment de pression sur Netanyahou et Donald Trump pour faire en sorte que là, la bouffe commence à rentrer là-bas?
C'est les pays alliés à Israël, dont le Canada. Le Canada est un allié d'Israël de très, très longue date. Israël est un pays, par sa position géopolitique, qui dépend de l'appui de ses alliés. Si tous les alliés d'Israël commencent à mettre pression, à dire « Écoute, là, ce qui se passe, c'est pas correct, puis on va te tourner le dos si tu continues », Israël va être obligé de prendre ça en note et va être obligé d'agir en conséquence. C'est sûr que présentement, on commence à sentir ça dans plusieurs pays occidentaux, du fait que, par exemple, on commence à avoir des appuis, des débuts d'appui militaire à ces flottilles-là de pays de l'OTAN. Mais le plus gros allié, ça reste les États-Unis.
Ça reste les États-Unis.
Et tant que les États-Unis, c'est ça. Tant que les États-Unis sont entièrement dans le coin d'Israël, ça va être très difficile convaincre le gouvernement de Netanyahou de changer de direction.
Mark Carney se rend à la Maison-Blanche mardi. Bon, on va parler de commerce, évidemment. Mais penses-tu que ça va être un point à l'ordre du jour?
Si c'est à l'ordre du jour, on ne va pas le savoir.
Non, ouais.
Moi, si j'ai à mettre, je fais de la spéculation, je suis pas dans Secret des Dieux, si j'ai à mettre un petit 2$ là-dessus, ce serait que s'il en parle, je doute que ça va faire les manchettes, je doute que ça va se savoir. Peut-être que le plus qui va arriver, c'est qu'un journaliste va poser la question et les deux vont dire, ou un d'entre eux va dire, on l'a abordé, prochaine question. Ouais. Parce que c'est pas dans les intérêts de M. Carney de souligner les points de désaccord entre le Canada et les États-Unis en géopolitique internationale.
En effet, t'as entièrement raison. Et je termine avec cette question-là. Est-ce que Benjamin Netanyahou et des grands dirigeants israéliens pourraient être arrêtés en droit international une fois que ce conflit-là va être réglé? Puis là, j'ai une fois que le conflit va être réglé, on sait pas quand, là, mais est-ce que ça pourrait arriver?
Ben, je pense que c'est un autre rappel important. Là. Présentement, il y a dans la Cour criminelle internationale, la Cour pénale internationale, la Cour de justice internationale, je suis désolé, je me souviens pas du nom de la Cour, là, mais selon le statut de Rome, il y a un mandat d'arrestation contre M. Netanyahou. Alors, si M. Netanyahou se rend dans un pays qui est signataire et encore partie prenante du statut de Rome, dont le Canada, il devrait normalement être arrêté pour qu'on l'envoie devant les cours de justice en droit international. Est-ce que ça va arriver? Personnellement, je ne sais pas. M. Netanyahou était aux États-Unis pour aller aux Nations Unies. Ça, c'est un cas un peu particulier parce que généralement, à travers le monde, on reconnaît que se rendre aux États-Unis, c'est un peu un passage sécuritaire pour tout le monde, peu importe. Mais c'est certain que tant que ce mandat d'arrestation-là reste présent, en théorie, selon les obligations en droit international du Canada, si M. Netanyahu vient au Canada, il devrait être arrêté. Est-ce que ça va arriver encore une fois? Je ne sais pas, puis je ne veux pas spéculer là-dessus. Peut-être qu'il va y avoir une entente politique entre tous les joueurs. On peut quand même donner une immunité diplomatique aussi, puis ça, c'est légitime vouloir le faire. Mais la théorie reste là.
Merci beaucoup, Farnell Morisset. On souhaite grandement que l'aide humanitaire se rende à Gaza dans les plus brefs délais. Honnêtement,
c'est pas assez critique.
Ah non, exactement. Faites juste aller regarder des reportages. Puis c'est la vraie vie, là, les reportages. C'est des journalistes qui sont là à Gaza, qui filment la population. Moi, juste de voir dans l'extrait que je vous ai passé, les pêcheurs sur des portes de frigidaire pêcher des petits poissons minuscules puis se dire, bon, ben au moins, je vais manger ça aujourd'hui.
C'est terrifiant. Il y a aussi des comptes très intéressants sur les médias sociaux. On voit des gens qui essaient de faire pousser n'importe quoi, des fruits et des légumes dans le sable. C'est la désespération.
C'est terrifiant. Merci, Farnell, de nous informer, de nous allumer sur ces enjeux-là qui sont tellement importants. On est-tu bien au Québec?
Souhaitons qu'on reste bien au Québec.
C'est
aussi,
ça.
Parce que, je veux dire, c'est pas des gens différents de nous là-bas.
Non, exactement. Merci beaucoup, Farnell Morisset, encore une fois, pour cette excellente chronique. Tu es un vulgarisateur hors pair.
Ça fait plaisir, merci.
Good, je te souhaite un excellent week-end. Mathias, avant de passer à une pause et à Lambert Drainville, quelques manchettes.
Oui, juste commencer en circulation parce qu'il y a présentement un accident sur Capitale direction S à hauteur de boulevard Saint-Jacques. Présentement, ça remonte pare-choc à pare-choc jusqu'à Henri IV, puis ça remonte même un peu sur Henri IV présentement. Présentement, l'accès au pont également direction sud, c'est difficile, ça remonte jusqu'à Charret sur Henri IV en ce moment. Capitale direction ouest entre Henri Bourassa et Laurentienne, difficile également. Si vous avez des informations sur les routes, 418-971-1021. On va continuer à traiter un peu de politique municipale de local et je commence avec le maire Bruno Marchand qui est sorti aujourd'hui pour faire sa troisième annonce économique d'un trio d'annonces qu'il a fait cette semaine. On a notamment commencé la semaine en annonçant le retrait des permis pour les terrasses.
Exactement. Il y a eu la rue Provencher hier dans Cap-Rouge.
Exactement, les différentes rues commerciales. Et aujourd'hui, on sort et on dit qu'on veut augmenter le nombre de nuits passées à Québec par les touristes. On promet d'injecter 10 millions sur 4 ans dans le but d'y arriver. Donc, les 10 millions vont se retrouver dans une enveloppe pour financer des projets, que ce soit provenant des sociétés de développement commercial ou de sociétés privées. Le but, c'est vraiment de développer l'offre touristique. On dit que présentement, les touristes à Québec passent en moyenne 3,8 nuits à Québec. L'objectif, c'est de passer ce chiffre-là à 5 nuits en moyenne par touriste.
Donc, on veut une semaine à Québec.
Exactement. Passer une semaine à Québec. Puis, le but, c'est bien sûr de dynamiser l'offre. Le maire a donné un exemple, un parcours immersif de la SDC du Vieux-Port qui verra jour au printemps. Également, ce montant-là pourra financer des options de transport, comme par exemple des navettes. Et justement, tant qu'à parler du maire Marchand, la Ville de Québec n'a pas tenté d'obtenir de financement pour le projet de raccordement des usines d'eau usées de Stoneham et de Lac-de-Lage, le jugeant d'emblée, et on dit peu réaliste et dépassant la capacité à payer des citoyens. Mais on n'a pas cherché à aller chercher de financement du côté provincial. Pourtant, présentement, ce projet-là, ça assurerait la pérennité de la source d'eau potable pour plus de 300 000 résidents de la capitale. Puis, ça provient pas de nulle part, là, ce fameux projet-là. C'est à la suite des recommandations scientifiques formulées depuis des années par l'organisme partenaire de la Ville de Québec, Agiro. Donc, on dit que son mandat à cet organisme-là, c'est d'assurer la protection du bassin versant du lac et de la rivière Saint-Charles. Donc, on disait, pour justement, par rapport à la rivière Saint-Charles, c'est nécessaire de faire ce projet-là pour assurer que les habitants aient accès à de l'eau potable. Pourtant, le maire Marchand semble pas vouloir le faire.
Alors que Claude Villeneuve l'a pris comme engagement électoral, justement, aujourd'hui, là, si je me trompe pas.
Oui, puis on pointe vraiment du doigt le fait que le maire Marchand a pris cette décision-là. On juge ça d'irresponsable, d'incompréhensible. Puis on dit que le maire Marchand préfère miser sur des mesures partielles. Il y a Mme de Guérette qui a déposé aujourd'hui sa candidature officielle à la mairie de Québec. Dans un communiqué, elle a notamment dit qu'elle voulait un report de l'adoption du budget de 2026 et qu'elle exige des audits financiers indépendants à propos du budget de la ville présentement.
On frappe tellement pas sa bonne cible encore.
Tout le monde s'attarde sur ça.
Ah oui, puis je comprends pas pourquoi qu'on s'attarde là-dessus. Je le répète, puis là, vous allez dire « Hey, t'es invendu, Marchand », mais non. Les finances à la Ville de Québec vont bien. On peut parler de stratégies autres que le budget de la ville qui sont justement problématiques, comme la taxe à l'immatriculation qui vient tenter de camoufler le déficit du RTC alors qu'on aurait à rebrasser cette organisation-là. Mais en ce qui a trait à la gestion financière, la ville de Québec a la cote la plus élevée de la firme Moody, cette même firme que le gouvernement du Québec, vous savez quoi, on vous décote. Donc, cherchez pas là les candidats qui sont contre Bruno Marchand. Allez sur le développement économique, allez sur la mobilité active, allez justement sur la taxe à l'immatriculation, mais allez pas dans les finances de la ville. Sont bonnes, les finances de la ville. Puis Luc Moody, le DG de la ville, fait un travail exceptionnel. Je le comprends tellement.
Mais peut-être du côté des candidats, on voit que c'est quand même à la mode politiquement. Puis présentement, on regarde au palier provincial, on regarde au palier fédéral. Vouloir faire un ménage dans les finances publiques
c'est
de la
clair.
Ville, ça pogne, ça attire les électeurs. Fait que peut-être qu'eux autres, ils regardent ça, puis ils disent, sans nécessairement qu'on puisse se critiquer, on va faire ces annonces-là. Puis on va attirer des électeurs
comme
ça. Mais
le problème, c'est que c'est 100 milliards de déficit qu'on va avoir au fédéral, puis c'est 13,5 au provincial, mais à la Ville de Québec, on rembourse la dette.
Ouais, non, je
c'est pas
je
du tout la
toi.
Même réalité.
Je suis d'accord avec toi. Je passe sur deux nouvelles rapidement. Tout d'abord, Post Canada, il y a une nouvelle offre qui est déposée justement pour le syndicat qui est présentement en grève. Là. On parle d'une hausse salariale de 13,59% sur 4 ans qui est présentement proposée aux employés de Post Canada, ainsi que le maintien des régimes de retraite à prestations déterminées, des assurances collectives et de généreux congés pouvant aller jusqu'à 7 semaines. Donc, c'est la nouvelle offre présentée aux employés de Post-Canada. Et je termine avec le premier ministre Mark Carney qui va se rendre à la Maison-Blanche mardi prochain pour y rencontrer le président américain Donald Trump.
Oui, on va reparler un peu en fin d'émission. Je vous ferai jouer justement un extrait de Pierre Poilievre qui fait ses recommandations à Mark Carney pour ce voyage-là. Mais dans le fond, c'est des recommandations que Mark Carney s'est données lui-même en campagne électorale. Je vais vous faire jouer ça. On va tenter, tu parlais de Post-Canada. Normalement, la semaine prochaine, on va parler avec le ministre Joël Lightbound qui est justement le porte-étendard de la réforme de Post-Canada, une réforme qui fait plein de sens. Donc, on devrait lui parler. Puis, on va tenter la semaine prochaine aussi de se pencher un peu plus sur le dossier des eaux, là. Lac-Saint-Charles, Rivière-Saint-Charles. C'est quand même assez complexe. Je veux qu'on puisse le comprendre et que les auditeurs puissent le comprendre aussi. Ça va être un élément important sur le vote municipal. Donc, je veux qu'on en parle. Parlant de vote municipal, Farnel, tu vas être avec nous le 2 novembre.
Oui, j'ai hâte à parler de ça.
Ben oui, élection municipale. Donc, les boss m'ont pas encore dit oui, mais tu sais, j'en parle quand même en nombre. Je suis de même, je suis un rebelle. Je viens d'abord.
Excellente façon de te faire dire oui.
Ben, exactement. Alors, Farnel, Morisset, Antonine Iacarini, normalement, devrait être avec nous également. Mathias va être sur le terrain. Max Larouche va être là au résultat. Alors, moi, je serai à l'animation. Donc, puis plein d'autres gens qui vont joindre à notre équipe également. Alors, si vous voulez être les mieux informés sur la campagne électorale, ça se passe ici à Boulevard. On l'a vu hier avec le débat. Je le rappelle, mardi, Claude Villeneuve contre Stéphane Lachance à 8h30 dans Marceau le matin. Et également, bien, vous allez le voir avec la soirée électorale du 2 novembre. On sera la radio à Québec le plus sur la coche pour ces élections municipales. Courte pause et par la suite, il est en feu. Il m'a dit, il faut absolument que je te parle du débat d'hier. Il a l'air fâché du débat d'hier, Lambert Drainville. Il a écouté ça sur sa petite TV parce que c'était sur Twitch puis YouTube. Il a l'air fâché. Sondage. Il faut absolument qu'on parle du sondage léger parce que aïe, 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 la CAQ et Québec solidaire sont en train de disparaître du paysage politique. Puis on va finir ça, le 1-2-3 punch. On avait fait cette semaine avec Lambert crochet de droit aux islamiques radicaux, crochet de gauche aux syndicats. Puis là, je me rappelle pas à qui on donnait l'uppercut final, mais en tout cas, alors là, l'uppercut va venir à Santé Québec qui a mis sur la glace deux projets de santé numérique. On parle de tout ça après la pause. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1, c'est l'émission On en jase. On en jase. Il est en feu, mes amis. Préparez vos textos 418-971-1021. Lambert Drainville est prêt à vous parler des trois sujets qu'on vous a dit. Le 1-2-3 punch débat d'hier sur les ondes de Boulevard. Mairie de Québec, Bruno Marchand contre Sam Ahmad. Par la suite, sondage léger. Que se passe-t-il avec la CAQ et Québec solidaire? Et on termine ça avec le dossier santé numérique 418-971-1021 pour réagir. Vous pouvez nous suivre sur twitch.tv/blvd/fm, également sur le BLVD 102.1 via l'application App Store et Google Play Store, et sur blvd.fm via la web radio. Et Mathias, avant de te passer la POC pour la circulation, mais je veux juste rappeler aux gens qu'on a la meilleure programmation musicale la fin de semaine. Ça débute après le retour de Gravel ce soir, 18h, le Garage à Dan avec Dan Caron. Samedi et dimanche, dès 7h, c'est le Rock and Chill avec Audrey Pinchot. De 10h à 15h, le samedi avec Dan Caron, le dimanche avec Colosse, c'est le Boulevard du Rock. Et dès 15h, les samedis et dimanches, c'est le Rack à Mat animé par Matt Marcotte. Alors, en plus du meilleur rock en ville, en écoutant Boulevard 102.1 ce week-end, vous pourriez gagner des billets pour aller voir Ghost le 30 janvier au Centre Bell. Aïe, aïe, aïe. Quel extraordinaire prix. Donc, soyez à l'écoute de notre programmation musicale ce week-end. Mathias, circulation.
L'accident sur Capitale direction Est est toujours pas réglé là, présentement à hauteur de Boulevard Saint-Jacques. Quand on parle de la voie de gauche qui est fermée, la SQ est présentement sur place pour régler la situation. Mais ça crée un gros ralentissement. C'est vraiment pare-choc jusqu'à Henri IV. Puis même, ça déborde un peu sur Henri IV là, présentement. Capitale direction Ouest, c'est surtout à hauteur de Laurentienne qui a un ralentissement. Également à hauteur de Beau-Royal, un ralentissement à prévoir aussi. Mais entre les deux, ça circule plutôt bien pour l'instant. Henri IV, direction sud, pour l'accès au pont Pierre-Laporte, ça remonte présentement jusqu'à Charest. Également, Wilfrid Hamel à l'intersection de Robert Bourassa, autant direction ouest que direction autant ouest que est, présentement un ralentissement à prévoir des deux côtés. Si vous avez des informations, 418-971-1021.
Merci beaucoup, Mathias. On s'en va le rejoindre. On lui parle à chaque mercredi et vendredi. C'est un vulgarisateur politique hors pair, Lambert Drainville. Comment vas-tu, mon ami?
Super bien, messieurs. Très content de vous retrouver, comme d'habitude.
Ah, moi aussi, très, très, très content. Là, Lambert, tu me dis, écoute, Jeff, j'ai écouté le débat une première fois hier soir. Par la suite, je l'ai réécouté à matin. Qu'est-ce que tu penses de ce débat-là?
Oui,
j'ai trouvé ça divertissant, mais comme je te disais, je me mets à la peau d'un électeur à Québec. Je ne suis pas sûr qu'on en retient grand-chose.
Ouais.
Ça avait bien commencé, là, les deux s'étaient entendus qu'il fallait faire la guerre à la congestion. Je sais que ah, c'est un bon début. Puis là, après ça, comme on dit par chez nous, c'est parti de travers.
C'est parti un peu croche. Hey, tu parlais de congestion, Lambert. Justement, il y a congestion quelque part, Mathias.
Oui, bien juste vous dire, vu que ça va prendre du temps avant qu'on refasse une circulation, ça vient tout juste de rentrer. Il y a présentement un accident sur Capitale direction ouest, hauteur boulevard Henri Bourassa. La voie de gauche qui est bloquée, la voie de centre qui est partiellement entravée. Donc, ça va causer du gros, gros ralentissement dans les prochaines minutes.
Lambert, je pense que tu vas être d'accord avec moi. J'ai lu la plateforme de Sam Ahmad. Ça m'avait plu, je la trouvais très réaliste, je la trouvais bonne pour le citoyen au niveau des finances publiques, notamment avec le retrait de la taxe à l'immatriculation. Je trouvais qu'en développement économique, on avait une vision claire. Mais hier, j'ai pas entendu ça, j'ai juste entendu un Sam Ahmad attaquer Bruno Marchand.
Ouais, exact. Moi, j'ai retenu une affaire. Là. Moi, j'ai pas regardé sa plateforme en détail. Je me basais un peu sur le débat pour en apprendre plus. Et au fond, j'ai retiré une affaire que je savais déjà, au fond, de sa plateforme. C'est que, ben lui, il est pour le troisième lien, puis il est contre le tramway.
Ouais.
Fait que, au-delà de ça, j'ai pas appris grand-chose. Je l'ai vraiment trouvé, comme tu dis, là, en mode bully, en mode borderline là, démagogique. Je comprends là, qu'il est deuxième dans les intentions de vote, qu'il tire de l'arrière, qu'il voulait visiblement, sa stratégie, c'était d'essayer de coincer Bruno Marchand. Mais à un moment donné, là, quand Bruno Marchand répond à ta question et que tu continues de picosser, puis de picosser, puis de picosser, ben passe à un autre appel. À un moment donné, il a demandé il y a combien de policiers à embaucher. Bruno a répondu 78 policiers en 2025. Il a dit ben non, c'est pas vrai, c'est pas dans les états financiers. Là, Bruno Marchand, il a dit ben c'est parce que les états financiers de 2025 ne sont pas sortis encore.
Oui, ben c'est ça. Oui, ben exactement. Moi, sur cette séquence-là, puis là, je le sais que c'est pas tous les auditeurs qui connaissent comment fonctionnent des états financiers et tout ça, mais peut-être tu le sais, là, quand tu es un candidat à la mairie, quand tu es un ancien ministre libéral, que si tu parles de statistiques 2025, elles vont être mises à jour à la fin de l'année. Là.
Ben, tu sais, les états financiers d'une année sont mis à jour à la fin de l'année quand l'année est terminée. Puis là, à ce que je sache, on est encore en 2025. Tu sais, quand je te parle d'amateurisme, là, je l'ai trouvé vraiment, tu sais, pour un gars qui a été ministre très, très longtemps au gouvernement du Québec, je l'ai trouvé très amateur. Et les gens qui ont écouté le débat aussi dans mon entourage disent un peu la même chose. Sur un segment au niveau de ses relations, les relations du maire Marchand avec le gouvernement du Québec, bon, sa maman l'a dit, tout le monde le sait que les relations du maire Marchand sont pas bonnes avec le gouvernement du Québec. Mais écoute, je peux juste parler pour moi quand j'étais là. Les relations avec notre cabinet étaient très, très bonnes. J'ai fait mon tour de roue auprès du cabinet de la ministre de l'Habitation, évidemment, qui collabore beaucoup avec les municipalités. Non seulement, comme je le pensais, les relations étaient bonnes, on m'a dit qu'elles étaient extraordinairement bonnes. La ministre de la Capitale-Nationale aussi, je sais que toi, tu en avais entendu
parler
également.
Oui, exactement, Jonathan Julien. Très bonne relation avec Éric Girard aussi aux finances. Tu sais, c'est simple, Bruno Marchand, ça l'a accroché avec une seule personne, Geneviève Guilbeault.
Et en toute transparence, c'est pas le seul avec qui ça l'a accroché avec Geneviève Guilbeault.
Tu me voles les mots de la bouche, mon lambert.
Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, ben honnêtement, je pense pas qu'il est complaisant, là. Bruno Marchand, il défend sa ville, là. Il défend sa ville. Moi, je me rappelle avoir eu des rencontres avec lui, puis, tu sais, il y a des bonnes relations, c'est cordial, mais quand il est temps d'aller au bat pour les gens de Québec, je me rappelle qu'il est très, très, très entêté, je vais dire même, là. Il est capable de défendre son monde, puis,
T'as raison là-dessus, puis c'est un point positif, honnêtement. T'sais, tu me le fais voir d'un autre angle, mais c'est un point positif. C'est un point qu'on émet de Régis Labombe, justement. Et il n'a pas hésité, Bruno Marchand, à le faire après le discours de François Legault cette semaine en sortant et en disant « Hey, ça n'a pas de bon sens, on ne parle pas d'itinérance, on ne parle pas de logement. Voyons donc, la crise est dans toutes les villes, dont à Québec. » Donc, puis moi, j'assistais à des conférences
de... J'assistais
à des conférences de presse où il t'a planté François Bonnardel parce qu'il n'y avait pas assez de policiers puis d'aide de la SQ. Il n'hésite pas à mettre la CAQ à l'avant-plan puis même à les envoyer à l'abattoir, là.
Ben exact. Sur la place publique, il fait de la politique. C'est un politicien. Son but, puis là, M. Hamad relevait le fait qu'il n'est pas allé chercher de gain au niveau des policiers, il n'est pas allé chercher de gain à telle autre place. Mais qu'est-ce que tu veux, quand tu es maire d'une grande ville comme ça, tu es beaucoup dépendant des moyens qui te sont donnés par le gouvernement de la province, par le gouvernement du Québec. Et tu lances des dards, tu fais de la politique, tu tapes sur le clou, puis tu tapes sur le clou, puis ta job, c'est un peu de continuer de taper sur le clou, puis tu tapes, puis tu tapes, puis tu picosses, puis tu picosses, puis à un moment donné, tu vas aller en chercher des gains. Puis c'est pas vrai qu'il est pas allé en chercher. Il a parlé du championnat du monde junior, mm-hmm. Il a parlé de, tu sais, moi, je me rappelle une annonce qu'on avait fait en itinérance à l'Aube-Rivière, une conférence de presse avec M. Carman, M. Julien, M. Marchand. Fait que, tu sais, il y en a eu des gains, là. Puis, tu sais, dans l'optique de... La démagogie, encore une fois, on s'en parlait un peu avant d'entrer en onde. Le discours inaugural, M. Hamad a dit « Avez-vous parlé au premier ministre avant son discours inaugural? » Hey, tu penses-tu vraiment, là, la CAQ, écoute, dans le bas des sondages, tu essaies de garder la tête en dehors de l'eau, tu penses-tu vraiment là, que le PM il va baser là, son allocution d'ouverture pour ce qui est peut-être sa dernière année en politique active sur le pitch que va y faire le maire de la Ville de Québec? Voyons donc, là, tu sais, c'est comme... Bref, je l'ai trouvé démagogique, je l'ai trouvé amateur, et je suis pas sûr qu'il s'est aidé hier à revenir dans la course. Je suis pas sûr que sa stratégie était la bonne. Alors, voilà.
Vois-tu par texto une personne qui écrit « Va t'inviter, Lambert Drainville résume ma pensée à 100%, bravo. » Tout à l'heure, les gens ont bien réagi également. Je me suis rendu compte que beaucoup de partisans de Sam Hamad qui demeurent partisans de Sam Hamad aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que dans un sondage léger, il y a 51% des gens à Québec qui veulent un changement à la mairie. Parlant de sondage léger, Lambert, 36% PQ, 25% libéraux. 16% la CAQ, 15% le PCQ et 6% Québec solidaire. Le discours, le remaniement ministériel, ça n'a pas créé d'effet positif présentement à la CAQ.
Ouais, puis j'entends beaucoup d'analyses là-dessus. Je voulais juste faire une petite précision. Là,
ben vas-y.
Le sondage a été mené du 26 au 28 septembre, donc ça a été fait avant
le discours.
Le discours. Fait que ça, c'est important. Là, j'entendais des analystes
vraiment.
Sur toutes les tribunes parler que le discours n'a pas eu d'effet. Ben, c'est un peu normal quand que le sondage a été mené avant le discours.
En effet.
Fait que petit point de précision, mais effectivement, il a quand même été mené après le remaniement. Et il y a plusieurs éléments du discours qui avaient déjà été...
dans le discours du remaniement, là.
Exact, il avait déjà été rendu public, là, qu'on savait un peu, c'était du réchauffé lorsque le discours a été prononcé.
si je vais partie par partie, bon, le Parti québécois, évidemment, on continue, on garde la tête, on reste largement premier. Parti libéral du Québec, écoute, son deuxième, leur défi, c'est encore une fois les francophones. Il n'y a pas gros, il y a pas de gros gains au niveau du vote francophone dans leur cas.
Non, seulement 16% que j'ai vu.
Exact. On est toujours dans l'optique du 15-16%. Si ça reste comme ça, ben qu'est-ce que tu veux? Ils sont pas mal destinés à demeurer à Montréal et à Laval. Fait que, écoute, moi, je m'attendais, quand Pablo Rodriguez est arrivé, à vraiment un changement de paradigme, une nouvelle vision, un nouvel élan, des nouvelles propositions. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais il est assez invisible.
Je suis tellement d'accord avec toi. Puis j'ai dit à Marc Tanguay cette semaine en ondes, qui était en entrevue avec nous, j'ai dit, Monsieur Tanguay, vous allez pogner une débarque pas à peu près parce que c'est Pablo Rodriguez qui va venir remplacer Marois Risky. C'est parce que Marois Risky, elle bouffe Pablo Rodriguez au niveau politique, là.
Ben pour l'instant, en tout cas, c'est le cas. Il n'a pas eu la chance de faire ses preuves au Salon Bleu, au Salon Rouge, pardon, jusqu'à maintenant, mais tu sais, là, je comprends qu'il est en réhabilitation. Il y a eu une opération.
Ouais.
Présentement, on va lui donner le bénéfice du doute. Là, c'est pour ça qu'il n'est pas là. Mais écoute, il va falloir qu'il réussisse à aller chercher plus de traction. Là. Pour la CAQ, bon, ça bouge pas. Ce qui est bon. Ce qui est une mauvaise nouvelle, parce que Tabarouette, il faut que ça bouge, tu sais. Eux autres,
ben oui.
Leur point, c'est que là, dans les. T'sais, on est en année électorale, il faut que ça bouge parce que si ça ne bouge pas, Jeff, je te le dis, on va se parler au retour des fêtes en janvier, février. Puis rappelle-toi comment ça s'est passé avec Joe Biden. Rappelle-toi comment ça s'est passé avec Justin Trudeau. Quand ça commence à grenouiller, puis que là, les élus sortent, puis ça coule dans les médias, l'insatisfaction. Puis là, il y a certains élus qui tranquillement se positionnent pour possiblement devenir l'alternative. Ça va devenir très, très difficile pour le premier ministre. Puis bref, il faut que ça commence à bouger dans les sondages parce que sinon, comme je le dis, ça va vraiment grenouiller.
Toi, tu vois un scénario là, Justin Trudeau, que ça sera au retour des fêtes. Mon collègue le matin, Yannick Marceau, dit que ça va se passer en décembre.
Non, je vois pas. Même que je pense que ça pourrait se faire. Là, si vraiment il s'accroche trop longtemps, ça pourrait être plus tard encore que ça. Là. Il pourrait partir plus au courant de l'été. Et ce serait un peu malheureux parce qu'il laisserait à ce moment-là vraiment pas beaucoup de temps là, à la personne qui viendrait pour le remplacer. Parti conservateur du Québec, c'est le meilleur résultat, eux autres, c'est les gagnants de ce sondage-là.
Clairement.
4, ils se rapprochent de la CAQ et de la troisième place. Ce que ça me dit, ben, c'est qu'il y a effectivement une frange de la population qui est de plus en plus à l'écoute de ce discours-là qui est de droite. Et la CAQ a visiblement Et visiblement au courant de ça, dans le discours du premier ministre, c'était évident qu'il y a un virage à droite quand on met sur la sécurité, quand on parle autant d'immigration, les islamistes radicaux, c'est allé quand même loin. Là. Mais ce que j'en retiens, c'est que c'est le Parti conservateur qui bénéficie de ce virage à droite d'une frange de la population québécoise présentement, puis que malgré le virage à droite de la CAQ, les gens n'écoutent tout simplement plus quand François Legault parle. Et là, il reste Québec solidaire là, avec une autre baisse d'un point. Ben honnêtement, je sais plus trop quoi te dire par rapport à eux. Là. Je les ai trouvés bons cette semaine. J'écoute la période de questions régulièrement. Mais ils n'ont juste aucune traction. Ils ne réussissent pas à aller chercher de l'attention médiatique. Je pense qu'ils vont vraiment être dus pour une grosse, grosse remise en question, une grosse réflexion avec leurs membres sur vers où est-ce qu'on s'en va. T'sais, Gabriel Nadeau-Dubois avait voulu ramener ce parti-là dans le pragmatisme, dans un parti qui pourrait aspirer à gouverner un jour. Ça n'a visiblement pas fonctionné. Là, est-ce que c'est un parti qui est destiné à être un parti militant de gauche qui va vouloir justement être très revendicateur, mais ne pas vraiment aspirer à gouverner? Ou ils veulent se positionner comme un parti qui un jour pourrait gouverner? Il faut que la réflexion se fasse. Il faut qu'une décision claire et précise soit prise à ce niveau-là et qu'elle soit transmise aux Québécois pour que les Québécois sachent à quoi s'attendre à leur égard.
Mais c'est sûr que de voir ce résultat-là pour Québec solidaire, ça semble difficile après ça de dire « Ouais, on a aspiration à gouverner avec un 6% dans les sondages puis en faisant que descendre. » Moi, Lambert, j'aimerais ça t'entendre. Parti conservateur à 15% présentement. On sait qu'une grosse partie de la population trouve un peu le Parti conservateur ridicule. Il y en a que le seul souvenir qu'ils ont, c'est la COVID, puis qui n'aspiraient pas nécessairement aux mêmes idéaux qu'Éric Duhaime. Il y en a qui n'aiment pas nécessairement la façon caricaturale, parfois, qu'Éric Duhaime a à faire de la politique. Est-ce que tu penses que le Parti conservateur, d'ici les prochaines élections dans les sondages, pourrait réussir à enfin franchir ce fameux cap-là du 15%?
Oui, absolument. Je pense que, comme je te dis, ils sont en croissance. Je pense que si la CAQ ne se remet pas sur les rails, plus on va arriver proche de l'élection, plus ils vont devenir une option crédible. Surtout que, tu sais, il y a 2-3 semaines, là, Éric Duhaime est rentré à l'Assemblée nationale avec le député indépendant, l'ancien caquiste, Youri Chassin. Tu sais, il y avait quand même des propositions par rapport au prix de l'essence, par rapport à la bureaucratie, des propositions concrètes, desquelles la CAQ, d'ailleurs, s'est inspirée, visiblement, là, pour le discours d'ouverture du premier ministre. Là. Mais...
Ben d'ailleurs, penses-tu que Éric Duhaime va sortir gagnant de ça, de pouvoir faire ses sorties après puis dire, regarde, vous voyez, c'est moi qui ai proposé telle idée, maintenant le premier ministre l'adopte, c'est moi qui ai proposé telle idée, maintenant, par exemple, ouais. Le PQ l'adopte. Éric Duhaime pourrait sortir gagnant de ça.
C'est un bon point que t'amènes, puis c'est un peu ça son spin présentement, c'est de dire, ben écoutez, moi je suis rentré en politique pour un parti qui allait même pas chercher 1% des intentions de vote, parce que je croyais en mes idéaux, je croyais à la droite au Québec, et ben là, il est rendu à 15%, il se fait voler ses idées par les autres partis, et là, il est en train de dire, ben voyez-vous, je suis rentré pour pousser mes idées, pousser mes idéaux, et mes idéaux et mes idées font du chemin et sont même repris par d'autres partis politiques. Et lui, il dit, ben écoute, c'est une bonne nouvelle. C'est la raison pour laquelle je suis là. Et moi, mes bottines sur mes babines. Et donc, si vous souhaitez continuer d'aller dans ce sens-là, d'un agenda plus à droite, ben je vais devenir une option sérieuse pour 2026. Bien honnêtement, je pense qu'il gagne effectivement à s'éloigner là, de la position qu'il avait durant la pandémie. Mm-hmm. Puis les espèces de dossiers un peu secondaire, là, qui a eu l'habitude de mettre beaucoup d'emphase dessus. Là, plus il va devenir, tu sais, proposer des idées sérieuses, plus je pense qu'il va se normaliser aux yeux d'une bonne partie de l'électorat.
Bon point, Mathias. Mathias, c'est tellement sur la coche, Lambert. Il est en progression fulgurante. Les auditeurs nous l'écrivent et ils ont tellement raison. Fait un travail impeccable. Lambert, on termine avec le dossier santé numérique parce qu'on a mis sur pause deux projets, c'est-à-dire le projet de regroupement pour nos dossiers de santé. Autrement dit, pour que peu importe où on va, les médecins ou les infirmières puissent voir notre dossier. Le dossier également pour ce qui est de la gestion financière du système de santé. Et là, la presse nous apprend que Gilles Bélanger, le ministre de la cybersécurité du numérique, lui, c'est pas une pause qu'il veut. Il veut mettre LGS dehors. LGS, qui était la firme impliquée dans le fiasco Satellite. Comment tu vois la situation? Est-ce qu'on va être sur pause pendant un bon temps, le temps d'aller se battre en cours pour mettre LGS dehors puis repartir sans neuf?
Ça va être à suivre. Je pense que c'est bien déjà que le ministre de la cybersécurité tienne tête, là, parce que M. Dubé a quand même un certain poids au sein du Conseil des ministres. Puis là, lui, il est arrivé en remplacement d'Éric Kerr, puis c'est pas, bon, le ministre avec le portefeuille le plus pesant, mais il tient son bout, puis lui, il a une job, puis c'est de suivre le développement des projets informatiques. Puis à un moment donné, bien, s'il y a des risques de dépassement, il s'assure de ne pas faire les mêmes erreurs que son prédécesseur puis de mettre le frein là-dessus. Fait que ça, je pense que c'est une bonne chose. Tu sais, c'est sûr que c'est un projet qui est central à la réforme que souhaite faire Christian Dubé du réseau de la santé. C'est sûr que c'est pas une bonne nouvelle ce matin. Au niveau du dossier santé numérique, évidemment, c'est intimement lié aux médecins, là, les médecins spécialistes qui ont refusé de participer à son implantation pour faire des moyens de pression alors qu'ils sont en négociation avec le gouvernement. Pour l'autre projet, ben c'est vraiment là, un comité de surveillance qui avait été mis en place dans la foulée de sa clique, justement, à Santé Québec, puis justement au ministère de la cybersécurité et du numérique. On avait dit, hey, voyez ce qui se passe à sa clique, là. On veut certainement pas qu'il arrive la même chose de notre bord. Fait que si vous voyez que ça dérape, qu'on dépasse les sommes, qu'on dépasse les échéanciers, ben levez-nous un drapeau rouge, puis on va mettre le frein là-dessus. C'est ce qui a été fait. Fait que, tu sais, moi, je pense que, évidemment, c'est pas une bonne nouvelle, mais la bonne nouvelle dans ça, c'est au moins qu'on apprend. Tu sais,
je suis tellement d'accord avec toi.
À vous, hein?
Ah, je suis d'accord avec toi. Moi, quand j'ai lu ça ce matin, et là, quand je vois l'article dans la presse, justement, qui parle du nouveau ministre Bélanger qui veut vraiment regarder ça en détail avec les contrats qu'on a donnés à LGS, ben moi, je me dis, sais-tu quoi? La commission Galland sert vraiment à quelque chose. Je suis content.
Ben, tu sais, exact. Les erreurs, c'est une chose, mais au moins, l'important, c'est d'apprendre des erreurs. on chiale sur le fait que ça a coûté puis qu'on a tiré tellement de centaines de millions par les fenêtres, mm-hmm. bien, au moins là, on va s'assurer d'avoir un portrait. Là, le... C'est l'AMP, l'Association de l'Autorité des marchés publics, exactement. Oui. L'AMP qui fait une enquête présentement, qui va arriver avec des recommandations. Le gouvernement va pouvoir tirer ses conclusions de ces recommandations-là par la suite. T'sais, c'est sûr que les besoins restent là. Présentement, tu as 30 systèmes différents, un par CIS puis par CIUS. À l'intérieur de ces systèmes-là, mm-hmm. tu as tout un paquet de règles pour les primes, les bonus, c'est tout un fouillis. Là, si tu veux avoir un employeur unique comme Santé Québec, il faut que tu aies un système d'informatique unique, sinon il n'y a rien qui va changer. Fait qu'éventuellement, je veux dire, ils vont devoir quand même, là, c'est sur la glace, ils vont quand même devoir prendre une décision au bout de la ligne. Est-ce qu'on tire sa plug? Et c'est ce que Gilles Bélanger semble vouloir mm-hmm. préconiser. Est-ce qu'on tire sa plug puis on paye l'amende qui vient avec le fait de briser le contrat? Où on va de l'avant puis on paye les dépassements de coûts.
Ça va être une décision importante pour la crédibilité de la CAQ là, dans cette année électorale-là.
Ça va être une décision importante pour la crédibilité de la CAQ puis bien franchement, pour le simple développement du réseau de la santé, à un moment donné, les fax, là, ça va faire.
Oui, c'est ça, exactement. T'sais? Surtout qu'à des endroits, le fax reste bouché puis à un moment donné, ping, 5000 consultations qui rentrent. C'est arrivé dans un hôpital de Québec.
Le nombre d'exemples, mon gars, qu'on pourrait sortir, c'est ça, un bon sens. Écoute, je vais finir en disant que dans tous les cas, la vérité, c'est que il y a tout un foutu problème avec ces contrats informatiques-là. Puis je comprends le ministre Bélanger de vouloir mm-hmm. sortir LGS de l'équation, mais c'est toujours le même scénario. On lance un appel d'offres, puis il n'y en a pas 36 des compagnies qui sont capables de prendre en charge des gros contrats comme ça. Il y en a 2-3... qui dépose des propositions sur les appels d'offres. En cours de route, on réalise qu'on a mal cerné les besoins, ça coûte plus cher, dépassement de coûts, on dépasse les budgets, les échéanciers, et on finit par payer des centaines de millions de trop pour ces projets-là. Parce que comme les infrastructures des hôpitaux, des cliniques ont été un peu délaissées et mal entretenues au fil des années, c'est un peu la même chose avec les systèmes informatiques. Ils sont très gros, ils sont très vieux, ils sont très vétustes. Et c'est tout un fouillis, particulièrement quand tu n'as pas cette expertise-là à l'interne, au sein des ministères, pour compétitionner avec l'expertise des compagnies privées de sortir gagnant mm-hmm. de ce genre de dossier-là.
Tu as raison, 100% Lambert Drainville. On se reparle mercredi prochain. Passe un beau week-end et merci encore pour ta participation à l'émission. On en jase!
Yes, sir. On s'en reparle mercredi prochain, messieurs.
Yes.
Une belle fin de semaine à vous.
Salut, mon chum. Hey, c'est rentré par texto. Mathias à la mairie. Pourquoi pas? On amène Mathias, justement, à la mairie de Québec. Let's go, guys!
Après plusieurs propositions des différents auditeurs, pendant le débat, Amand Marchand ça. D'amener Denis à Gravel à la place à la mairie.
C'est toi,
maintenant, c'est moi.
On met des
dizaines et des dizaines de candidats partout. Ça ne va plus arrêter. On en a déjà 6. C'est en masse.
Oui, c'est en masse. Tu as bien raison. Nadine, tout à fait d'accord avec Lambert. Sam Amand n'a pas été très concluant. En effet, c'est la pensée de plusieurs. Amand a tellement attaquer Marchand sans fondement. C'est un autre auditeur ou auditrice qui nous écrit ça. Que même les gens qui n'aiment pas Marchand le défendent. En effet, je ne suis pas un grand défenseur de Bruno Marchand. Puis après ce débat-là, je me surprends à dire « Ouais, il me semble que Bruno s'en est bien tiré. » Donc, c'est un excellent point. Il y a Antoine qui mentionnait « J'aurais une question. » Puis là, je m'excuse Antoine, on ne l'a pas posé à Lambert. « Pourquoi au Québec versus en France, les politiciens ne sont pas imputables des fraudes créées et que c'est encore la société qui doit payer par en arrière? » Ça va peut-être faire partie des recommandations de la commission Galland. Dire, hey, là, l'imputabilité, il en a parlé énormément durant la commission. Comment qu'on peut rendre ça plus loin? Et même si ça n'a pas donné de grands résultats depuis sa création, il y a l'UPAC qui existe, qui pourrait justement mener à des accusations aux criminels. Circulation, Mathias?
Oui, ben je vous parlais tout à l'heure de l'accident sur Capitale direction ouest à hauteur de Boulevard-Henri-Bourassa. Maintenant, c'est la voie de gauche et la voie du centre qui est bloquée. Donc vraiment, comme je vous l'avais dit tantôt, prévoyez un ralentissement monstre qui va se créer dans le secteur, puis c'est un ralentissement monstre. Là. On parle d'à partir de rue Seigneuriale à Beauport jusqu'à Henri-Bourassa, mais on parle vraiment de pare-choc à pare-choc, ça avance au ralenti. Également, Capitale direction est cette fois-ci à hauteur de Robert Bourassa. Ralentissement à prévoir. Henri IV direction sud pour prendre le pont Pierre-Laporte. Présentement, ça remonte jusqu'à versant nord. On s'en va sur Charest en direction est à hauteur de Avenue Holland. En ralentissement à prévoir également. Mm-hmm. Si vous avez des informations, 418-971-1021.
Ah, que j'ai adoré notre débat d'hier et que j'adore ces exercices démocratiques parce que ça vous fait tellement réagir. Christian qui écrit « Marchand un super pouvoir attendrir et en faisant pitié. » En effet, c'est un super pouvoir. Pascal qui écrit « Il n'y a personne qui confronte Marchand, il n'est pas challengé. » C'est tellement vrai. Va falloir justement qu'on se lance plus sur le bilan. Puis je vais le répéter, fait 48 ans, je le répète. Développement économique, les candidats qui sont contre Bruno Marchand, allez l'attaquer là-dessus. Recul de 0,3% en 2023. Ça a fait de Québec la pire ville des 20 plus grandes villes au Canada. Seulement une hausse de 0,4% en 2024. Et là, en 2025, on s'en va là-dessus sur un 0,4-0,5. C'est là le maillon faible de Bruno Marchand. Attaquez-le sur le développement économique.
Puis je tiens à le préciser, par le ton que M. Hamad a employé hier, moi, je l'ai quand même aimé. Le débat a commencé, puis Hamad y est allé agressif. Puis j'étais comme... Je le dis depuis le début de la campagne que pour moi, Sam Hamad manque de mordant. J'étais comme enfin du
vrai.
Mordant. Au début du débat, ça a été ça ma première réflexion. Ça a été enfin Sam Hamad a du mordant. Ça va être un bon débat. Ce qui m'a déçu, c'est que je trouvais. C'est pas que Marchand a été attaqué par Hamad. Ça, j'ai trouvé que c'était correct. Ce qui m'a plus dérangé, moi, c'est qu'on n'attaquait pas sur des bonnes choses. On attaquait sur des chiffres, sur des données de la ville qui, au final, menaient absolument à rien.
On l'attaquait sur des picadilles.
C'est ça. Si on l'avait vraiment attaqué concrètement avec ce ton-là, là, on aurait peut-être, j'aurais peut-être sorti de là puis j'aurais dit « Hey, Sam Hamad a fait tout un travail. »
Ben vraiment, t'es fait juste prendre le débat, là, la thématique sur les finances et le développement économique. Oui. Là, Sam Hamad s'est enfargé dans un nombre d'employés, nombre de policiers, puis pourcentage de par rapport au budget de comment coûtent les salaires des employés. Mais moi, là, j'avais été Sam Hamad, j'aurais dit, Bruno, M. Marchand, dites-moi donc, c'est quoi vos résultats en développement économique en pourcentage? Puis là, Bruno Marchand est obligé de dire moins 0,3, 0,4, puis on s'en va vers 0,5. Parfait, c'est quoi votre vision en développement économique? Là, Bruno Marchand aurait parlé, Sam Hamad, il aurait dit, vois-tu, moi, ma vision, c'est ça. Tac, tac, tac. Puis ça va rapporter tant parce que moi, je l'ai fait quand j'étais ministre. Puis moi, je crois à ça. Puis l'intelligence artificielle, c'est vers là qu'il faut s'en aller. Il aurait emboîté Bruno Marchand solide.
Mais au lieu, on a aimé mieux s'attarder sur combien la ville dépense en montant pour
exactement.
Ses employés. Combien de policiers on a engagé quand pour moi, au final, ce chiffre-là... Ben, change pas grand-chose.
N'importe peu, là. J'en ai embauché 48 ou 22, là. Ça importe peu à l'heure actuelle. J'ai envie de vous parler d'un garçon spécial, un jeune garçon à la fois courageux et résilient, mais surtout talentueux. J'ai envie de vous parler de Jalen. Jalen, c'est un garçon en soins palliatifs atteint d'une tumeur au cerveau. Depuis sa première craniotomie, il dessine des robots, chacun inspiré par ses émotions et son parcours face à la maladie. Chaque couleur, chaque trait traduit ses émotions du moment. Ces robots sont forts, colorés, porteur d'espoir, représente puissance et résilience. Il a choisi de partager son univers incroyable avec nous, l'équipe formidable de la maison Les Merveilles, Suzanne Vachon, qui offre des soins pédiatriques, palliatifs et réalise les rêves des enfants en fin de vie, a collaboré avec Encadrement Desrochers pour rendre son rêve réalité. Exposer ses dessins dans une galerie d'art. Hey, c'est-tu pas beau? Ce samedi 4 octobre de 13h à 17h, venez plonger dans son univers touchant et émouvant. Ses dessins seront exposés au pavillon Marc Beauchamp ainsi que sur le site web au galeriebeauchamp.com/collection/Jalen. 100% des profits amassés sur la vente de ces dessins seront remis à la Fondation Le Camp du CHU. Alors, participez en grand nombre et allez encourager Jalen, ce jeune garçon tellement, mais tellement courageux. On fait une courte pause à On en jase sur Boulevard 101. Par la suite, on revient avec l'essentiel de l'actualité, mais surtout les grands rendez-vous sportifs de la fin de semaine. Restez avec nous.
Pascal CV.
Pascal CV rendu à sa cinquième journée au Kilimanjaro. On lui parle lundi matin dans Marceau le matin. Il devrait être rendu au sommet. Félicitations à Pascal et à notre collègue de week-end, Joanie Fortin. Vous êtes des femmes extraordinaires. 418-971-1011 pour nous joindre par texto. Martin qui écrit « Monsieur Hamad est clairement moins à l'aise dans un débat que Monsieur Marchand, mais il aura quand même mon vote parce que ça ne veut absolument rien dire qu'il ne fera pas un bon maire s'il n'a pas eu un bon débat. Et entre vous et moi, on est dû pour un changement. » Ben Martin, tu représentes 51% de la population qui veulent un changement au poste de maire. C'est juste, est-ce que ce sera suffisant pour battre Bruno Marchand avec justement les différents candidats qui sont là? Pas grand-chose sur les banlieues par rapport au débat. C'est vrai, on a parlé un peu d'asphaltage sur les banlieues, mais on n'a pas vraiment parlé de ce sujet-là qui pourtant est très important pour la campagne électorale et les attaques de M. Hamad sur la fontaine du parc. My God, avec des bonhommes souris. En effet, Renault Dépôt est fermé, M. Hamad.
Oh my God, mais encore une fois, Sam Hamad des banlieues, c'est un autre point où tu aurais pu puncher, où tu aurais pu aller critiquer Bruno Marchand.
Les votes sont là. À Beauport, ces trois candidats sont en avance à l'heure actuelle. Justine Savard, Steven Simenançon et Isabelle Roy. Faut qu'ils marquent des points dans les banlieues. Meggy Gagné, qu'on a reçu en entrevue lundi dernier dans Val-Bélair, a des très bonnes chances de se faire élire. Donc, il se doit de marquer des points à ces endroits-là. Il n'y a pas de doute dans mon esprit.
100%, je t'emmène en circulation. Oui. Rappel sur l'accident qui a présentement lieu sur Capitale direction ouest à hauteur de Henri Bourassa. Présentement, la voie de gauche et la voie de centre qui sont tous les deux fermés. Donc, ça crée un ralentissement, un bouchon monstre. On parle de pare-choc à pare-choc à partir de Henri Bourassa et ça jusqu'à rue Seigneurial. Donc, je rappelle sur Capitale direction ouest. Également, Capitale direction est, on commence à avoir un très gros ralentissement également. Ça part de Henri IV et ça va jusqu'à Pierre Bertrand présentement, ralentissement à prévoir dans le secteur. Wilfrid Hamel sur l'intersection à hauteur de Robert Bourassa, ralentissement à prévoir dans les deux sens. Henri IV, direction sud, pour aller chercher Pierre Laporte présentement. Le ralentissement est jusqu'à Chemin Sainte-Foy. Si vous avez des informations sur les routes, 418-971-1021.
Qu'est-ce qu'on doit suivre dans l'actualité, Mathias, à cette veille de week-end?
Oui, bien, je vous parlais tout à l'heure de toute la situation concernant le raccordement des usines d'eau usée de Stoneham et de Lac-des-Lages. David de Québec n'a pas tenté d'obtenir de financement pour faire en sorte que ce projet-là aille mieux. Pourtant, on parle d'un projet qui aurait assuré la pérennité de sources d'eau potable pour plus de 300 000 résidents de la capitale. Donc, c'est quand même énorme. Et ça vient pas de nulle part, ce projet-là. C'était des recommandations scientifiques formulées par l'organisme partenaire David de Québec à Giraud. Pourquoi je vous parle de ça encore une fois, c'est que c'est très intéressant. Ça vient de sortir, il y a de ça 40 minutes dans Radio-Canada. Bon niveau des rivières. Les citoyens de Québec invités à réduire leur consommation d'eau. Donc, en raison des faibles précipitations présentement, la Ville de Québec qui invite les citoyens à réduire leur consommation d'eau. Pourtant, là, je viens
comme
vous
quand il fait trop frette, là, avec Hydro-Québec.
Avec Hydro-Québec, exactement. Ben justement, on parle d'éviter de laver leur voiture ou encore n'utiliser de la vaisselle que lorsqu'il est plein. Donc, du côté de la vaisselle, on voit des ressemblances avec Hydro-Québec,
ben,
effectivement.
Oui, mais qui passe son lave-vaisselle quand il est vide ou à moitié vide? J'aimerais le savoir.
Ben, selon moi, plus de personnes que tu penses. Plus de personnes que tu penses.
De ça. Hey, parlant du 418-971-1021, il reste à peu près 4 minutes à l'émission. On inonde le texto pour souhaiter bonne fête à Mathias qui aura 22 ans samedi. Alors, souhaitez bonne fête à mon chum Mathias avec qui j'ai énormément de plaisir à faire de la radio.
C'est drôle parce que 22 ans, je trouve que c'est comme le dernier âge avant 25 ans qui se passe de quoi.
C'est
t'es
vrai.
Là, à 21 ans, tu deviens majeur partout. À 20 ans, tu touches le 20 ans. À 19 ans, tu plus de points sur ton permis de conduire, c'est cool. À 18 ans, tu deviens majeur. À 17 ans, t'as ton permis de conduire. Ouais. À 16 ans, t'as 16 ans. À 22 ans, t'as ton permis de boisson, donc à 0.08. Mais après ça, 23 ans, c'est comme... Ça. Bon, non, c'est 23 ans. Fait que, regarde, on va en profiter en fin de semaine du mieux qu'on peut parce que j'ai beaucoup de devoirs à rattraper, comme j'en parlais
parce
à Jeff.
Merci d'être à la radio avec moi et justement de sacrifier des temps précieux d'études. PO qui écrit, imaginez si Sam a une majorité de conseillers, mais se fait battre par une bonne marge à la mairie avec aucun colistier. Ça ferait pouet, 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 pas mal. Puis honnêtement, si sa maman fait une bonne campagne, c'est à la fin, dans les banlieues, il va aller chercher plusieurs candidats. Mais c'est pas dit que le vote à la mairie sera pas divisé. C'est très plausible ce que tu amènes, PO.
Mais ça va être intéressant de voir aussi est-ce que les candidats vont se retourner vers d'autres partis à ce moment-là. Est-ce que
en effet, quelqu'un va avoir des alliances qui vont se créer?
Est-ce que quelqu'un pourrait décider de reprendre le parti Leadership Québec? Donc, ça va être intéressant à suivre si jamais ça arrive.
Très intéressant.
Juste en rafale, rappeler quelques dossiers à suivre en fin de semaine. Poste Canada, une nouvelle offre est déposée aux employés, au syndicat des employés qui sont présentement en grève. On parle de 13,59% d'augmentation sur 4 ans. Également, Mark Carney, mardi, va être en visite à la Maison-Blanche pour rencontrer le président américain, Donald Trump. J'ai pas le choix de vous parler de fermeture en fin de semaine parce que le pont de Québec qui sera fermé en fin de semaine, en fait, à partir de ce soir, on parle de 22h, si je me trompe pas, jusqu'à 7h le lendemain matin. Donc, ça va être à prévoir dans vos déplacements. Également, en fin de semaine, c'est le marathon Beneva de Québec. Donc, on parle de certaines artères majeures qui seront affectées. On parle notamment de Grande Allée Ouest, boulevard Wilfrid Hamel, chemin Saint-Louis, rue du Quai Saint-André, boulevard Champlain, ainsi que d'autres axes centraux. Pour certaines de ces rues-là, ça va être possible de circuler, mais par alternance. Donc, les autorités vont être sur place pour s'assurer. Si vous voulez toutes les informations, rendez-vous sur Info Circulation de la Ville de Québec. High drive by Bo Bichette, deep left field. Beck runs out of room. See you later again. Second homer of the inning for the Blue Jays. Another Bichette home run in Denver. And it's 9-0 Toronto. Oh, yes. Ça commence ce samedi 16h08. Les Jays qui reçoivent les Yankees de New York. Quelle série exceptionnelle. On va avoir une série 3-5. Vous venez d'entendre un circuit de Bo Bichette cette année à Denver. Normalement, il devrait être de retour à son poste d'arrêt-court. Lui qui a raté presque la totalité du mois de septembre. Alors, 16h08 ce samedi. 16h08 ce dimanche, les Jays contre les Yankees, c'est les deux premiers matchs. NFL, il y aura évidemment un autre dimanche d'NFL. On commence avec Taylor Gabriel qui va prendre les commandes des Browns de Cleveland après 4 matchs. On tente la recette Jackson Dart à New York du côté des Browns de Cleveland qui va affronter les Vikings. Sinon, Mathias, qui va gagner dans les matchs importants? Buccaneers Seahawks. J'irais pour les Buccaneers. Souvent, ils ont quand même un bon début de saison. Je pense que c'est une équipe qui est complète. Donc, on va y aller pour eux autres.
Je vais y aller avec les Seahawks qui jouent à domicile. C'est toujours très bruyant là-bas. Et dans le match du dimanche soir, est-ce que les Bills vont demeurer vaincus à 5-0 face aux Patriots?
Ah, pour moi, oui. Bills, c'est une des grosses équipes cette année. Je verrais les Bills remporter le Super Bowl, honnêtement. Josh Allen, qui est tout un corps arrière. Donc, non, ça va être très intéressant à suivre, mais selon moi, les Bills vont l'emporter. Yes.
Le retour de Gravel suit à l'instant même. Par la suite, c'est le Garage à Dan et notre excellente programmation musicale du week-end. Pour ce qui est de nous, on se reparle à midi lundi prochain.
Je tiens à remercier tout le monde qui m'ont souhaité bonne fête. Yes. Je vous souhaite une excellente fin de semaine.
Bon 22 ans, mon Mathias. Merci d'être à l'antenne de Boulevard 102.1. On se parle la semaine prochaine. Bon week-end, tout le monde. Bye-bye.